Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 139. Peut-on comprendre la mécanique quantique? Troisième partie. Peut-on penser autrement la mécanique quantique? Il s'agit d'une conférence de Jean Briquemont, donnée à Louvain-la-Neuve le mercredi 14 décembre 2011.
Bienvenue au dernier exposé. J'ai mis ici les références des sites où vous trouvez les transparentes du premier exposé. Et les transparentes et l'enregistrement de Jean-Michel Abrassin qui est ici, qui enregistre aussi le troisième sur son site pangolial.com, etc. J'ai mis une référence à Mike Towler, qui fait partie du groupe de matières condensées du laboratoire Cavendish à Cambridge, et qui a énormément développé le matériel pédagogique autour de ce que je fais aujourd'hui. Et d'une certaine façon, il était plus respectable de citer quelqu'un du Cavendish Laboratory pour ce qui est de la physique, parce que c'est pas un physicien mathématicien comme moi, c'est un vrai physicien, et en fait c'est un physicien qui faisait des calculs de chimie quantique, si j'ai bien compris, et d'orbital quantique, et qui s'est intéressé alors à la théorie de Bohm précisément parce qu'il la théorie de Bohm précisément parce qu'il étudiait ça. Alors j'ai aussi mis quelques références de livres, donc il y a le livre de Bell qui est d'une certaine façon le meilleur. Si vous voulez un livre très détaillé sur la théorie de Bohm qui fait tout et qui fait aussi les notions de probabilité, les notions mathématiques utiles, etc. D'ailleurs, pour ceux qui veulent étudier les mathématiques de la mécanique quantique, c'est un très bon ouvrage aussi. Le livre de Dürer et Teufel qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Springer. Et alors un livre plus ancien de Bohm lui-même et de Hayley qui s'appelle The Undivided Universe. Bien. Alors, comme la fois passée, je vais diviser l'exposé en deux. Je vais faire plus ou moins une heure de physique, on va dire, et une heure après, purement historique, pour ceux que ça intéresse. Alors, résumé des épisodes précédents, il y a deux mystères. Premier mystère, le rôle apparemment essentiel de la mesure. Je vais vous voir s'il y a quelque chose qui ressemble à un bâton ici, non ? Bon. Le rôle essentiel de la mesure, qui de plus ne peut pas être comprise de façon naïve comme mesure d'une propriété inexistante, préexistante. Ça, c'est le théorème de Bell-Cocken-Specker qui dit que vous ne pouvez pas interpréter les mesures comme révélant des choses préexistantes, évidemment, à l'objet mesuré. Propriété appliquée à la situation EPR, cette non-existence de propriété préexistante implique que le monde est non local, en ce sens qu'il existe une forme subtile mais réelle d'action instantanée à distance. Que faire des deux mystères ? Peut-on se débarrasser de la non-localité? Non, parce que le raisonnement EPR Bell se fonde uniquement sur des données expérimentales et est totalement indépendant du formalisme quantique. Il est vrai que les données expérimentales ont été découvertes grâce à la mécanique quantique, mais il faut faire une distinction entre la logique et la psychologie ou l'histoire. Du point de vue de la logique de la découverte, si vous voulez, la mécanique quantique a joué un rôle dans la découverte de EPR Bell, évidemment, sinon on n'y aurait jamais pensé. Mais une fois qu'on y a pensé, les faits sont là, et c'est uniquement à partir des données expérimentales qu'on déduit la non-localité, sans se préoccuper jamais du formalisme quantique. C'est très important de comprendre ça, sinon on peut penser que peut-être une théorie ultérieure pourrait nous débarrasser de ce genre de problème. Peut-on se débarrasser de l'anthropocentrisme, du premier mystère, c'est-à-dire du caractère central, irréductible, fondamental de la mesure, comme Deus ex machina, à l'intérieur du formalisme quantique? La réponse est oui, et c'est le but de ce cours d'expliquer comment. Alors, angoisse existentielle. Suis-je un vecteur dans un espace de Hilbert? Et j'ai une tête à cela. Avant de répondre, et vous-même, et l'univers, est-il un vecteur? L'état quantique n'est pas tout. En fait, il n'est rien. Il est juste un vecteur dans un espace de Hilbert. Excuse pour les mathématiciens, cet objet mathématique abstrait n'est pas le monde. Le monde n'est pas cet objet mathématique abstrait. Toute discussion de la mécanique quantique, même la discussion ordinaire, introduit toujours une ontologie. Alors, quand j'utilise le mot ontologie, on va m'accuser de faire de la philosophie, de la métaphysique, etc. Ce que je veux dire par ontologie, c'est quelque chose qui existe en dehors de l'état quantique. L'état quantique n'est pas le monde n'est pas un vecteur dans l'espace de l'univers. Le vecteur joue un rôle dans la compréhension du monde, représente des choses qui sont dans le monde, peu importe. Mais il y a une ontologie Et c'est quelque chose qui existe en dehors de l'état quantique. Ne serait-ce que les appareils de mesure dont on peut prédire le comportement et qui sont classiques, c'est-à-dire échappent au traitement quantique. D'accord, ça c'est l'interprétation de Copenhague, la version rationnelle de l'interprétation de Copenhague. Vous dites, il n'y a que les appareils de mesure dont je connais l'existence, je me préoccupe de prédire leur comportement. Et dans l'interprétation naïve mais intenable, ça c'est celle, comme je dis, qui est posée par le premier mystère, on suppose aussi que les observables ont des valeurs préexistantes, ce qui est nouveau, une partie de l'ontologie. Vous pensez naïvement que quand vous mesurez la position, vous mesurez l'impulsion, le spin, etc., vous mesurez quelque chose de préexistant, ça veut dire par définition ce que j'appelle l'ontologie. Peut-on faire mieux ? C'est-à-dire ne pas avoir une ontologie qui inclut plus que les appareils de mesure, mais moins que les valeurs de toutes les observables. C'est-à-dire plus que les appareils de mesure, parce que je trouve évidemment absurde de penser dans un monde constitué uniquement d'appareils de mesure, ou dont la physique se limiterait à la discussion des appareils de mesure, mais moins que les valeurs de toutes les observables, parce qu'évidemment on ne peut pas. Quid de l'idée que certaines observables, et pas toutes, ont une réalité objective ? Pourquoi pas ? Peut-on envisager cette possibilité en particulier ? Qui a dit qu'une particule ne pouvait pas avoir une trajectoire indépendamment des observations ? À peu près tout le monde. Et qui a donné un argument pour cela ? Personne. Et sûrement pas Bell, Koch et Speicher, les théorèmes sur les variables cachées, parce que leur théorème se rappelle toujours au spin ou à des variables de ce genre. Il n'y a aucun théorème de ce type-là qui dit qu'il y a une contradiction si on introduit des trajectoires. La théorie dont je vais parler, c'est la théorie que je vais appeler de Breuil-Baum, et Bell, parce que Bell l'a popularisé, Bell l'a expliqué, Bell l'a défendu. Et sans lui, on l'aurait peut-être oublié, mais c'est une théorie de variables cachées, conventionnellement appelée variables cachées, qui ne sont pas cachées, qui élimine entièrement le rôle de l'observateur, il n'y a pas de rôle particulier de l'observateur, qui n'est pas réfuté par les théorèmes sur les variables cachées, qui rend compte de toutes les expériences justifiant la mécanique quantique, qui permet de comprendre le rôle actif de l'appareil de mesure, c'est-à-dire l'intuition que vous trouvez dans les textes de bord, mais qui, dans les textes de bord, est un a priori philosophique et qui n'est pas dans les équations mêmes et qui explique dans la mesure où c'est possible la non-localité de l'univers. Alors comme je l'avais fait la fois passée, je dis, est-ce que vous êtes prêts à écouter ? La réponse classique, c'est de dire non, ou bien alors en deux mots. Et donc je vais expliquer, mais si vous êtes là, c'est que vous voulez bien écouter, mais souvent, même quand on dit ça, les physiciens ne sont pas intéressés. Reprenons l'expérience des deux trous, que je n'ai pas expliqué très en détail la première fois. Et donc je vais la réexpliquer. J'espère qu'on voit relativement bien ce qui se passe. Donc vous envoyez des électrons, mettons une source d'électrons à gauche, là, et dans la première expérience, vous avez un trou qui est bouché, l'autre trou qui est ouvert, et les particules se comportent, comme on dit grosso modo, par des particules, elles sont diffusées par un trou, et elles se répandent plus ou moins avec une distribution statistique qui est celle qui est indiquée par la ligne en pointillé, ici, qui montre la densité, si vous voulez, d'impact des électrons. Et alors, je le rappelle pour les physiciens, pour les non-physiciens plutôt, les expériences sont supposées être faites électron par électron, particule par particule. Ça n'a rien à voir avec les interactions possibles entre particules. C'est seulement que la source envoie les électrons dans les sens différents, un peu différents, et ils arrivent là, et on a une image symétrique dans l'autre cas. Quand on ouvre les deux trous, on pourrait s'attendre à voir la somme des deux. Ça, c'est le trait en pointillé, et en réalité, on observe la zone ondulée. C'est-à-dire qu'on a exactement comme dans l'expérience de l'interféromètre dont j'avais parlé, si vous bloquez un des chemins, si vous bloquez un des trous, et bien il y a des endroits où vous aurez plus de particules que si vous ne le bloquiez pas. D'accord ? Et donc d'une certaine façon, le fait de bloquer un trou affecte les particules qui passent par l'autre trou, exactement comme dans l'expérience de l'interféromètre. Et on dit que les électrons sont à la fois des ondes et des particules parce que quand ils passent à travers un trou, ils se comportent à peu près comme des particules. Et quand ils passent par les deux trous, on a ces franges d'interférence qui sont typiques d'un comportement ondulatoire. Alors dans le langage usuel, on vous dit, si on a les deux trous ouverts, ils se comportent comme des ondes. S'il y a un seul trou ouvert, ils se comportent comme des particules. Et qui plus est, on peut encore faire des mesures, si vous voulez, intermédiaires. On peut faire un truc de mesure après les deux trous, après qu'elle soit passée par un des deux trous, on peut s'arrananger. Ça, c'est l'expérience inventée par Wheeler, qui est une expérience que je mentionnerai plus tard dans mon cas, qui est celui des interféromètres, qui est de dire qu'on peut faire l'expérience de façon retardée, c'est-à-dire on peut d'une certaine façon décider, après qu'elle soit passée par un des deux trous, si elle passe par un des deux trous ou l'autre, et d'une certaine façon, on peut décider maintenant ce qui s'est passé dans le passé. C'est l'interprétation traditionnelle qui, évidemment, est absurde, enfin incompréhensible, et qui n'est pas nécessaire, de rentrer dans ce genre de problème, parce que si on pose la question comment les électrons peuvent-ils être à la fois ondes et particules, la réponse est très simple, ce sont des ondes guidées par des particules. Ça, c'est la réponse à la théorie de Breuil-Boom. Alors maintenant, je vais vous écrire les équations, et puis je ferai les conséquences physiques de cette théorie. Donc, qu'est-ce que c'est l'état d'un système? L'état d'un système, c'est l'état quantique supplémenté par un vecteur x qui est, représente les coordonnées des particules qui existent, indépendamment du fait qu'on les regarde ou qu'on les mesure. Donc, les particules ont des positions x1, xn, qui sont des points dans Rn, si vous voulez, dans R3. Ce sont des variables cachées en ce sens qu'elles ne sont pas mises, elles ne sont pas incluses dans la description purement quantique, qui est l'état quantique, le vecteur, si vous voulez, un espace de Hilbert. Mais elles ne sont nullement cachées, ce sont ces positions que l'on détecte directement dans tous les cas. Quand vous faites l'expérience ici avec deux trous, vous ne détectez jamais que des positions. Dans tous les cas, que vous mettiez les écrans où vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous faites, vous ne détectez jamais que des positions. Donc en fait, si on veut vraiment partir de l'empirique et de partir de l'observation, l'observation c'est toujours des positions, il n'y a jamais rien d'autre. C'est aussi quelque chose que les gens qui pensent qu'il y a une symétrie entre position et vitesse oublient, c'est que quand vous mesurez par exemple une vitesse, vous regardez un cadran, vous regardez une aiguille sur un cadran, par exemple dans votre voiture, et vous regardez la position d'un objet. Je vous défie de mesurer les vitesses sans mesurer les positions. Mais vous pouvez mesurer les positions sans mesurer les vitesses, évidemment, c'est pas symétrique. Et donc en fait, les seules choses auxquelles on a réellement accès, ce sont les positions. Bref, il y a une évolution temporelle de l'état, évidemment, comme toujours en physique. Et l'évolution temporelle me dit qu'il y a d'abord l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger est vraie tout le temps, quoi qu'il se passe, qu'on mesure ou qu'on ne mesure pas. Il n'y a rien qui change, c'est l'évolution unitaire engendrée par l'hamiltonien. J'ai écrit l'hamiltonien pour ceux qui sont habitués à cette notation, donc c'est de Laplacien moins de Laplacien plus V. Et c'est l'hamiltonien quantique avec h bar égale 1 et m égale 1. J'ai normalisé les choses pour simplifier un peu les équations. Et puis il y a l'équation pilote qui est la nouvelle chose. Les positions des particules évoluent au cours du temps, comme en mécanique classique, si vous voulez. Leur mouvement est déterminé par l'état quantique. C'est la vitesse qui est une fonction de la fonction d'onde. Et qui est écrite là, si vous voulez, la façon la plus simple, c'est d'écrire la fonction d'onde comme une partie, sous forme radiale, donc une partie radiale exponentielle d'une partie complexe, d'une phase, et c'est le gradient de la phase. La vitesse est donnée par le gradient de la phase. Et ça n'a rien de mystérieux, parce qu'en mécanique quantique usuelle, on écrit ce qu'on appelle l'équation de conservation de la probabilité, qui est la probabilité donnée par psi carré, qui dit d rho dt plus divergence de J est égal à 0, et J c'est simplement rho fois x point. Si on calcule le J tel qu'on calcule en mécanique quantique usuelle, et bien on voit que c'est donné par le gradient de la phase, c'est une façon d'écrire les équations de Schrödinger. Vous pouvez, cette équation d rho dt plus divergence de J égale 0 est une conséquence de l'équation de Schrödinger. Si vous introduisez la représentation psi égale à reis dans l'équation de Schrödinger, vous obtenez deux équations, une pour la partie réelle, l'autre pour la partie imaginaire, et la partie imaginaire, en fait, vous donne le d rho dt plus divergence de J égale 0. Alors maintenant, comment penser à ce psi? Je pense à psi, ou plutôt imaginaire de log de psi, pour être précis, puisque c'est ça ce qui apparaît dans l'équation, comme analogue à l'hamiltonien en mécanique classique. L'hamiltonien est aussi défini partout, il est défini en fait sur l'espace de phase, sur l'espace des positions et des vitesses du système. C'est un objet mathématique abstrait qui guide le mouvement des particules à travers les équations d'Hamilton. Ici, je pense à la fonction d'onde comme analogue à une loi dynamique. Et on peut me répondre, oui, mais la fonction d'onde, contrairement à l'hamiltonien, change au cours du temps. À ça, je répondrai deux choses. D'une part, si on pense à l'hamiltonien, dans beaucoup de cas pratiques, l'hamiltonien dépend du temps parce que le système n'est pas fermé. Et l'autre chose que je pourrais répondre, c'est qu'on pourrait penser à des fonctions d'onde de l'univers, mais je n'entrerai pas là-dedans, qui sont en fait indépendantes du temps. Donc ça, une question un peu compliquée, mais prenons cette analogie-là. Et Bohm a réécrit, en fait, ça c'est un peu la nouveauté de Bohm, mais je ne suis pas sûr que c'était un avantage, il a réécrit cette équation du premier ordre, l'équation x point, comme une équation du deuxième ordre, analogue à l'équation de Newton, il suffit de prendre la dérivée et de chipoter un peu, sous la forme de l'équation de Newton, donc qui est de la forme accélération égale force, où la force est le gradient d'un potentiel, et c'est le gradient d'un potentiel qui est le potentiel classique plus un potentiel quantique dépendant uniquement de la fonction d'onde. Mais comme personne, alors, en tenant compte, si on tient compte du vécu de psi, on peut raisonner classiquement. Et c'est très bien fait dans les notes de Taylor, par exemple, sur le site de Taylor, par exemple. Vous pouvez prendre l'exemple, pour ceux qui sont habitués à la mécanique quantique, de l'exemple de la barrière de potentiel. Il y a l'effet tunnel, on peut sauter au-dessus d'une barrière de potentiel. Et ce qui se passe, c'est quand vous incluez le potentiel quantique, la barrière de potentiel, ça baisse, et vous pouvez raisonner tout à fait classiquement, par exemple, si vous voulez visualiser ce qui se passe. Et qui vous dit qu'il n'y a pas de potentiel quantique? Parce que qui vous dit qu'il y a un potentiel classique? Qui a jamais vu un potentiel classique? Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est que vous preniez les équations de Newton, les équations de la mécanique, l'électromagnétisme, ou les équations de la relativité générale, vous avez toujours des objets inobservables, les forces, les potentiels, les champs électromagnétiques, la courbure de l'espace, qui apparaissent et qui expliquent comment se déplace la matière dans l'espace. C'est toujours la même chose. Il n'y a personne qui n'a jamais vu une force ou un potentiel. On a une vue chosiste de la force parce qu'on dit, voilà, je vais pousser sur le mur, sur le livre, mais ce n'est pas du tout ça les forces en physique, parce que les forces gravitationnelles, personne n'y a jamais vu. On voit leurs effets à travers le fait qu'elles guident le mouvement des corps, exactement comme ici. D'ailleurs, on ne mesure pas à proprement parler la fonction d'onde, on en voit les effets. Et donc, cette introduction du potentiel quantique, ça permet aussi, évidemment, de voir la limite classique. Quand est-ce que la limite classique est valide? Eh bien, les trajectoires deviennent classiques quand le potentiel quantique est négligeable, ce qui se passe pour les grands corps, etc., etc. Enfin, ça, il y a toutes sortes de conditions, mais ça permet de visualiser ça. Alors, maintenant, prenons l'expérience des deux trous. Solution numérique de la dynamique de De Broglie-Bohr, on obtient ça. C'est-à-dire, vous regardez les deux trous ouverts, je n'ai pas fait le cas avec un trou ouvert, mais les deux trous ouverts, et vous voyez que les trajectoires sont extrêmement compliquées et ondulatoires. Dans le vide, il n'y a pas de force, il n'y a pas de potentiel classique. Mais il y a un potentiel quantique, parce que les particules sont guidées par, dans la version de De Broglie, dans la version d'équation différentielle du premier ordre, elles sont guidées par l'onde, et l'onde passe par les deux trous, évidemment, comme toutes les ondes, elles passent par les deux trous, c'est pas ça ce qui est mystérieux. Le comportement est hautement non classique. En termes de potentiel, ce qui se passe, c'est que le V classique est zéro, enfin, ou constant, si vous voulez, mais le V quantique n'est pas zéro, parce que la fonction d'onde n'est pas zéro, et le V quantique n'est pas zéro, donc vous avez une action, une équation de Newton très compliquée, mais on peut la résoudre numériquement. Notez que l'on peut déterminer a posteriori le trou par lequel la particule est passée, contrairement à ce qu'on dit toujours, parce que vous pouvez voir, à partir de la théorie, vous pouvez dire s'il est passé en haut, si vous le détectez en haut ou en bas, vous verrez. Et notez aussi la présence d'une ligne nodale par symétrie de psi. Bon, on suppose que le psi a une propriété de symétrie, ça interviendra plus tard. La vitesse est tangente à la ligne séparant le haut et le bas de l'image. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, vous n'avez pas de pointeur, la ligne noire là au milieu. Donc les particules ne peuvent pas traverser cette ligne, c'est une ligne nodale dans les équations du mouvement. Alors maintenant vient quelque chose que j'aime beaucoup. Une expérience récente publiée dans Science, juin 2011, donc c'est tout à fait récent, montre le résultat d'une mesure des trajectoires dans l'expérience des deux trous. Et la ressemblance au moins qualitative avec la simulation numérique, je la trouve assez spectaculaire. J'ai un ami d'ailleurs, Detlef Dürr, qui est l'un des auteurs de ce livre, qui a eu son anniversaire récemment au mois de juin. J'étais à Munich pour son anniversaire et ses étudiants lui ont fait un gâteau sur lequel ils ont mis la crème fraîche, cette expérience-là. J'ai demandé si c'était le truc théorique ou celui-là, mais ils sont fatigués à mettre cette expérience-là, parce que je trouve ça assez spectaculaire. Alors vous pouvez me dire, mais comment peut-on mesurer les trajectoires? Et bien connu qu'en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer les trajectoires. Ça, c'est vrai. Mais ce que les gens ont inventé, c'est des mesures faibles. Alors, je ne suis pas spécialiste des mesures faibles, peut-être que là, il y a des... sur les bancs, il y a des gens qui pourront m'expliquer mieux ce qui se passe. Mais ce qui se passe dans la mesure faible, c'est que vous faites une mesure, mais qui ne vous donne pas la position précise de la particule ou la valeur propre précise de la particule, mais qui, par ailleurs, ne réduit pas complètement le paquet d'ondes, la fonction d'onde. Donc il n'y a pas de collapse de la fonction d'onde au sens, dans le langage traditionnel. Mais vous pouvez avoir une information sur la position, mais qui n'est pas très précise. Mais en refaisant l'expérience un grand nombre de fois, et en prenant la moyenne, vous trouvez la position qui serait prédite par la théorie de Bohm. Et quand vous faites ça un grand nombre de fois, alors pour chacune des trajectoires, mais bon, ça c'est fait évidemment, ça peut être fait assez rapidement, puisque ces choses vont quand même très vite, vous arrivez alors à une figure comme celle-là, où vous avez des mesures indirectes de la position, ça c'est vrai, ce sont des mesures des positions successives, donc des trajectoires, et par conséquent, ce sont des mesures indirectes des positions, mais néanmoins, ces mesures sont... pour moi c'est indirect, mais à peu près toutes les mesures dans le monde sont indirectes. Si vous allez chez le médecin et qu'il vous fait une prise de sang et qu'il découvre quelque chose dans votre sang, il n'a pas nécessairement découvert tout de suite directement la maladie, il a trouvé la trace de la maladie dans votre sang, c'est une mesure indirecte. Pensez aux dinosaures, toute l'histoire, toute la préhistoire, tout ça, ce sont des mesures indirectes. Et moi je ne vois absolument rien dans le fait que ce soit une mesure indirecte qui puisse ne pas considérer ça comme une confirmation de la théorie. Dans les livres de cours, par contre, on lit, mais ça c'est un des exemples parmi de nombreux que vous trouvez entre autres sur le site de Tauler, il est clair que l'expérience à deux trous ne peut en aucune façon être réconciliée avec l'idée que les électrons se déplacent selon des chemins. En mécanique quantique, il n'y a pas de concept de chemin d'une particule. Est-ce si clair que cela? N'est-il pas évident, dit Bell, Étant donné la petitesse des scintillations sur l'écran, parce qu'à chaque moment, vous voyez un bip sur l'écran à un point donné, où vous mettiez l'écran, juste après le trou, plus loin, peu importe, que nous avons affaire à une particule. Il n'est-il pas évident, étant donné les franges d'interférence et de diffraction, donc le fait que les mesures, vous avez ce pattern-là, que le mouvement de la particule est dirigé par une onde. De Broglie a montré en détail comment le mouvement de la particule passant par seulement un des trous de l'écran pouvait être influencé par des ondes se propageant à travers les deux trous, et influencé d'une façon telle que la particule ne va pas là où les ondes s'annulent, mais est attirée là où elle coopère. Cette idée me semble si naturelle et simple pour résoudre le dilemme de particules que le fait qu'elle soit si généralement ignorée peut être un grand mystère. Trois qualités de base de cette théorie que je voudrais expliquer dans le reste de la première heure. Enfin, il explique les expériences avec le spin et il explique les théorèmes sur la non-existence des variables cachées. Alors que vous pouvez trouver des... Je ne veux pas dire des millions parce qu'il n'y a pas des millions de références, mais vous trouvez un nombre incroyable de références qui disent que les théorèmes sur les variables cachées ont réfuté la théorie de Bohm. C'est en fait un des mérites de la théorie de Bohm d'expliquer pourquoi les théorèmes sur les variables cachées sont valides. Il illustre la source de la non-localité, c'est-à-dire que le théorème de Bell, montre qu'il y a quelque chose de non-local dans le monde, mais ne vous dit pas quoi. Dans la théorie de Bohm, c'est explicite. Vous le voyez dans les équations. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment une théorie déterministe obtient-elle les mêmes résultats statistiques que la mécanique quantique ordinaire, puisque la théorie est complètement déterministe et les prédictions sont statistiques. Alors voyons d'abord comment ça marche pour le spin. Mais pour le spin, vous avez, alors on représente par les boules là, si vous voulez, le support d'une fonction d'onde. Imaginez une fonction d'onde concentrée sur une petite boule, simplifiée pour une boule en trois dimensions ou un disque ici. Et quand on fait une mesure de spin, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit un champ magnétique et vous avez une partie de la fonction. Alors, suivant, maintenant j'ai écrit le formalisme standard, ça c'est tout à fait standard, la fonction d'onde va se diviser en deux parties, l'une qui va aller vers le haut et l'autre qui va aller vers le bas, et celle qui est vers le bas est désignée comme la fonction d'onde de spin down et l'autre de spin up. Ça c'est tout à fait la distinction, il n'y a pas de théorie bohmienne, là c'est tout à fait standard. Alors, si je le fais dans le langage bohmien, ce qui se passe c'est ceci. Enfin, je devrais dire de Broglie Bohm, parce que c'est très injuste, on est très injuste avec de Broglie. Moi-même, j'ai cette habitude de parler de mécanique bohmienne, ici on parle de mécanique bohmienne, mais la théorie était vraiment très développée par de Broglie, on reviendra à ça dans la partie historique, donc mais j'ai un tic de langage qui fait que je parle pas. Alors, vous avez la position de l'électron là, mais non, il n'y a pas que la fonction d'onde, il y a aussi une position de l'électron, d'accord, ça c'est l'état complet du système. Alors, il y a le champ magnétique, donc vous avez un état spin up, mettons up ou down, peu importe, dans la direction 1, et rappelez-vous, ça devient une somme d'un état up dans la direction down, et état up dans la direction 2, et down dans la direction 2, c'est une somme des deux. Ça c'est le langage usuel de la mécanique quantique, là je ne fais rien de neuf, mais dans la théorie de Bohm, évidemment, l'électron va seulement dans une des deux branches, et puis il est guidé par la partie dans le support de laquelle il se trouve. Donc si par exemple il est dans la partie up, la partie supérieure de la, comment dirais-je, du paquet d'ondes, de la fonction d'onde, ben, il va aller vers le haut. On verra ça plus en détail plus tard, mais ça a fait, disons, de la théorie, il va aller vers le haut. S'il repasse dans une boîte qui mesure 2, où j'ai mis les trous un peu différemment, les trous de up et down, et ben, comme maintenant il est 2 up, ben, il va aller de up et il va se retrouver dans la partie droite. On a une consistance, si vous voulez, des mesures. Et c'est la même chose si on fait la mesure dans l'autre. Si par exemple il se trouve dans la partie inférieure, il va aller dans la partie inférieure. Et puis il va aller, si on le remesure, il va être de nouveau mesuré. Ça, c'est simplement comment la théorie, ce que la théorie vous dit. Je ne vais pas résoudre les équations de mouvement. Mais si vous voulez. Attendez, je regarde. Donc, c'est ça que je voulais dire, le commentaire qui échappe. Qui avait été effacé. La particule est guidée par la partie de la fonction d'onde dans le support de laquelle elle se trouve. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, une fois que vous avez cette séparation en deux morceaux, la partie ici où il n'y a pas d'électron, la partie en bas, c'est une fonction d'onde qui continue à se propager, elle continue son petit bonhomme de chemin, mais elle ne nous intéresse plus, à moins qu'on fasse des méthodes de recombinaison plus tard auxquelles on viendra. Mais pour l'instant, on pourrait très bien considérer que cette fonction d'onde disparaît du jeu, il n'y a pas d'électron, il ne guide pas l'électron, parce que l'électron est guidé, si vous regardez les équations de guidage de l'onde pilote, eh bien, l'onde pilote agit là où l'électron est, pas là où il n'est pas, et la partie de la fonction d'onde qui n'est pas là, mais vous pouvez penser à ça comme l'hamiltonien. Vous pouvez penser à l'hamiltonien comme à l'hamiltonien, si vous voulez, quand classique, à des endroits où il n'y a pas de particules, d'accord ? il y a un hamiltonien, en principe défini sur tout l'espace. Il y a un endroit où il n'y a pas de particules, et bien l'hamiltonien n'agit pas, le fonctionnement c'est pareil. Alors maintenant, pourquoi la mesure du spin dans la direction 2 peut changer sa valeur dans la direction 1? Et bien là c'est très simple, vous avez deux positions possibles de l'électron au départ, vous avez le spin 1, hop, vous mettez dans la boîte 2. Alors comme ils sont tous les deux vers le haut, ils vont aller dans la partie haut, on reviendra à ça plus tard en détail, mais suivez, admettez simplement que c'est ça ce que fait la dynamique. Donc il y a la partie de la fonction d'onde qui va vers le bas, on l'oublie pour le moment, elle ne guide plus rien. La particule est guidée là, vous avez une particule maintenant qui est spin up dans la direction 2, puis continue, et puis on le remet dans une boîte où on mesure 1, il va se repasser ce qui se passait avant. Vous avez une partie, à travers l'appareil de mesure, les deux positions des particules ont évolué, elles ont été plutôt un petit peu vers le bas, c'est-à-dire que celle qui était tout en haut se trouve encore en haut, et celle qui était un peu en dessous, la blanche, est passée dans la moitié en dessous. Quand elle passe ici, la partie en haut va aller vers le haut, la partie en bas va aller vers le bas, et avec une probabilité 50-50, c'est-à-dire que vous allez retrouver maintenant, quand vous avez la boule noire, si vous voulez, va vous donner le spin-up 1, ce qui était le truc de départ, mais la boule blanche va avoir un spin-up down, un spin 1 dans la direction down, pardon, après la deuxième mesure, et donc vous avez changé le spin, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez simplement, mais n'oubliez pas que vous ne faites que mesurer des positions, d'accord? Vous faites des mesures de positions, il ne faut pas se mystifier sur le spin, puisqu'on a vu que le spin, d'une certaine façon, n'était pas réel. Et les phénomènes d'interférence que... Oui, vas-y. Quoi? Ah, tu as un pointeur, ça c'est... Merci.
Tu veux dire que le spin est complètement déterminé par la vraie position?
Non. Ce qui est déterminé, tu vois, le mouvement des particules est entièrement déterminé par les positions et l'hamiltonien. D'accord? Mais attends une seconde, attends deux, trois transparentes et tu vas voir exactement ce qui se passe avec le spin. Donc pour le moment, je décris simplement, j'ai un système dynamique, on peut l'aimer ou pas, mais enfin j'ai un système dynamique qui est bien défini, qui est déterministe, où j'ai la partie ici qui me donne l'évolution de la fonction d'onde, d'accord? Et puis la fonction d'onde guide les particules, d'accord? À travers cette équation-là. Il me semble que j'ai le droit de considérer ce système dynamique, et je décris ce qui se passe dans une expérience où tu rajoutes dans l'hamiltonien, si tu as un potentiel ici, qui est en fait un champ magnétique et qui agit sur la fonction d'onde et qui la fait se séparer en deux morceaux. D'accord? Ça, c'est la mécanique quantique-usuelle, ça, je ne veux pas discuter de ça, ça, c'est tout à fait standard et ce n'est pas contesté. Mais je dis ce qui se passe avec les positions des particules dans ce cas-là, pour illustrer, d'accord, ce qui se passe, c'est tout. Et donc, en particulier, il n'y a rien de mystérieux dans ce cas-ci au fait que tu parles de deux positions différentes, tu as ces deux positions qui se sont éloignées, maintenant, il y a une qui est au-dessus, l'autre qui est en bas, celle en bas va aller là, celle en haut va aller là, c'est simplement une conséquence de l'équation du mouvement, c'est lié aux lignes nodales, si tu veux, au fait que les parties, c'est lié au problème des... Mais je vais revenir à ça plus loin, mais donc je décris simplement ce qui se passe, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes d'interférence? Bien, rappelez-vous ce qui se passe. On introduit un vecteur up dans la direction 1, oubliez toujours la partie x qui fait simplement, qui suit simplement un certain chemin. Vous mesurez dans la direction 2, alors vous avez ici une partie et l'autre partie, donc vous avez la direction 2 up ici, et ici vous avez la direction 2 down, ça n'apparaît pas, mais donc vous avez 2 up ici, 2 down là, puis vous avez des miroirs, ça les renvoie là, d'accord? Et on le fait particule par particule, j'ai dessiné deux particules pour pouvoir faire deux dessins, mais vous pouvez penser à chaque particule individuellement. Chaque particule subit un chemin, c'est bien pour ça qu'on la détecte, quand on la détecte quelque part, on détecte toujours quelque part, mais l'onde suit les deux, comme dans l'expérience des deux trous. Qu'est-ce qui interdit à une onde de passer par deux chemins? Il n'y a rien qui interdit à une onde de passer par deux chemins. Et donc l'onde passe par ce chemin-ci et celui-là. Et quand on les recombine ici, on reconstruit la fonction d'onde de départ. Et donc les particules, évidemment, vont se retrouver soit la partie haute ou la partie basse. Et si on remesure en direction 1, comme l'onde ici est entièrement 1 dans la direction up, ça veut dire que quand on agit l'aimant ici, elles vont nécessairement sortir par le trou up. Dans la direction 1 et par le trou d'arbre. Et donc on va trouver 100%, on part d'ici. Si on faisait une mesure ici ou là, on aurait 50-50. Ça c'est le truc habituel parce que c'est le truc ici, si vous voulez, c'est qu'une fois qu'on a mesuré dans la direction 2, la direction 1 devient 50-50. Donc si on prend le résultat d'une mesure dans la direction 2 ici qu'on fait une mesure là ou là, dans direction 1, on a 50-50, donc on a perdu, si vous voulez, le fait que l'onde était dans l'état était dans la direction 1, idem ici, mais quand on les recombine, on reconstruit le même état, et on retrouve le fait qu'ils sont 100% up dans la direction 1. Ce qui veut dire, évidemment, qu'il faut faire attention aux mesures, mais maintenant vous comprenez plus ou moins ce qui se passe. C'est les fonctions d'onde qui sont importantes, c'est les fonctions d'onde qui guident, et si la fonction d'onde est recombinée, bien, elle guide différemment que si elle n'est pas recombinée. Si vous mettez un mur ici, pour bloquer le passage des particules, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais vous tuez une partie de la fonction d'onde. Vous tuez la partie de la fonction d'onde qui passe ici. Vous vous retrouvez ici uniquement avec la fonction d'onde 2 up. Et il est bien connu que quand vous avez la fonction d'onde 2 up, eh bien, vous avez 50-50 quand vous remesurez. C'est ce qui se passe ici. Vous avez une fonction d'onde 2 up, vous mesurez dans la direction 1, c'est 50 up, 50 down. Et donc, c'est, vous n'avez plus cette image-là, vous avez 50-50 par ce trou-là, 50 par, si vous bloquez. La particule suit un chemin et un seul, mais l'onde qui la guide devient une superposition de deux ondes, chacune suivant un des deux chemins. Comme dans l'expérience des deux trous, la particule passe par un trou, l'onde passe par les deux, et guide évidemment différemment la particule suivant que les deux trous sont ouverts ou pas. Si l'on combine les deux ondes, on obtient un résultat différent si on en bloque une, pas très étonnant. La chose qui est surprenante et qui en fait pose des problèmes quand j'explique les choses aux physiciens, enfin à mes collègues en général, c'est que l'onde est physique. Elle joue un rôle de pilotage, elle joue un rôle physique comme l'hamiltonien, si vous voulez, et n'est pas seulement une onde de probabilité. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'on ne sait pas ce que, de probabilité de quoi, on n'a jamais expliqué de probabilité de quoi, si ce n'est d'appareil de résultat de mesure. Alors maintenant, je vais venir à ta question. Bon, ce n'était pas pédagogique, mais je pense que c'était important de le faire dans cet ordre-là quand même. Pourquoi les mesures, autres que les mesures de position, ne mesurent en général aucune propriété préexistante de la particule? Ce que j'avais dit la fois passée, c'est que, ou la première fois, que le spin même n'est pas réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété intrinsèque du système. Alors vous pouvez me dire, mais le système est déterministe, comment ça se passe? Le système est déterministe. Alors le système est déterministe, si vous avez un résultat de mesure, il devait être déterminé. Oui, par l'univers tout entier, mais pas par des propriétés de la particule. C'est ça l'important. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et l'univers inclut l'appareil de mesure. Et l'appareil de mesure joue un rôle. L'appareil de mesure n'est pas passif, il n'enregistre pas de propriétés préexistantes du système. Toutes choses que vous trouvez posées philosophiquement dans les écrits des gens de Copenhague, mais posées philosophiquement. Ici, ça sort des équations. Alors pourquoi ça sort des équations? Mais vous prenez une fonction d'onde ici, et vous prenez une particule clairement dans la moitié supérieure. Et vous mettez le champ magnétique ici que j'oriente dans une direction. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la fonction d'onde ici, mettons qu'elle est dans une superposition up et down dans la direction 2, mettons qu'elle est up dans la direction 1, donc elle est une superposition up et down dans la direction 2, et évidemment, la fonction d'onde va se séparer en deux morceaux ici et là. D'accord? Le champ magnétique, la partie 2 va toujours dans la direction du champ, et la partie 2 down va toujours dans la direction opposée. Mais la particule, si elle est initialement située dans la partie supérieure de la fonction d'onde, va toujours aller vers le haut à cause des lignes nodales. Il y a, de nouveau par hypothèse, une espèce de symétrie ici qui fait que la particule ne peut pas traverser la ligne du milieu, exactement comme dans l'expérience des deux trous. Et donc, elle va soit aller vers le haut, c'est dans la partie haut, ou soit aller vers le bas, c'est dans la partie bas. Mettons que c'est une conséquence des équations. Maintenant, renversons le sens du champ. Refaisons la même expérience avec la même fonction d'onde et la même position. Absolument détaillé mathématiquement, la particule va encore aller vers le haut puisqu'elle ne peut pas traverser les lignes nodales. Le fait qu'on renverse le sens du champ ne change rien au fait qu'elle ne peut pas traverser les lignes nodales. Ça, c'est simplement de nouveau. Je vous donne un certain nombre de faits de l'équation. Et donc ici, vous avez deux. Maintenant, c'est deux down. Et là, c'est deux up. Pourquoi c'est down et up? Parce que par définition, up, c'est dans la direction du champ et down, c'est en direction opposée. Par définition, il n'y a rien qui vous dit intrinsèquement ce qui est up et down. C'est simplement, par définition, la direction du champ, vous appelez ça comme ça. Donc si on renverse le sens du champ, la particule qui était spin-up devient spin-down. Alors qu'on mesure la même quantité, on mesure le même opérateur, entre guillemets, de spin, dans les deux dispositifs, mais avec des arrangements différents de l'appareil. Donc quand vous changez l'appareil, non pas de façon dramatique, simplement en changeant le sens du champ, vous changez la valeur du résultat. Est-ce que c'est surprenant? Mais non, puisqu'on ne mesure pas quelque chose de une propriété intrinsèque du système. Évidemment, si vous spécifiez l'appareil, vous spécifiez la fonction d'onde et la position, tout est déterministe. Et le résultat est prédéterminé, ça c'est vrai. Mais, quand celui-ci n'est pas, l'appareil n'est pas passif, il n'enregistre pas simplement quelque chose de préexistant à la mesure, mais actif. Ceci justifie l'intuition de Bohr, mais en l'incorporant dans la théorie même, pas comme un deus ex machina. C'est-à-dire que l'appareil de mesure et toutes les mesures autres que position, que ce soit l'énergie, que ce soit le moment angulaire, que ce soit l'impulsion etc. La vitesse aussi. Par exemple, quand vous avez un appareil de mesure qui joue un rôle actif. Et ça, c'est important. Et ça, c'est peut-être une des premières qualités de la théorie de Bohm, c'est qu'elle explique les théorèmes sur l'absence de variables cachées. Vous ne pouvez pas présupposer que le spin existe parce qu'il n'existe pas. La théorie vous explique pourquoi il n'existe pas. Pour connaître le spin, il ne faut pas seulement dire je vais mesurer le spin dans cette direction-là. Il faut dire vous allez le faire avec un champ magnétique par là ou un champ magnétique par là. Que vous le mettiez dans un sens ou l'autre, vous mesurez toujours le spin. Ça, c'est un choix d'orientation des axes à la limite. Einstein a... Je vois ces étudiants... il me semblait qu'il y a un étudiant qui avait posé la question à tel homme, mais je ne le vois plus. Mais il y avait un étudiant qui a posé la question au premier cours, qui était exactement l'objection que Heisenberg avait fait à Einstein, et ça, c'est la réponse d'Einstein. Donc, Heisenberg avait dit à Einstein que quand il avait fait quand Einstein avait fait la relativité, il avait utilisé un langage en termes de mesures très opérationnel, il était influencé par la philosophie de Mach, etc., qu'il a complètement rejeté. La relativité, c'est 1905, ici on parle de 26 ou 25. Et il dit à Heisenberg, il est tout à fait erroné d'essayer de baser une théorie uniquement sur des quantités observables. En réalité, c'est l'opposé qui se passe, c'est la théorie qui décide que nous pouvons observer. Et ça, c'est très profond, et c'est illustré par la théorie de Bohm. Il y a un long chemin, alors ça c'est un commentaire qui est rajouté, mais qui va des phénomènes à la production d'événements dans les appareils et de là aux impressions des sens. Et tout au long de ce chemin, nous devons être capables de dire comment la nature fonctionne avant de pouvoir prétendre avoir observé quoi que ce soit. Quand on parle d'observation, vous faites comme si tout pouvait être laissé comme c'était, comme si vous pouviez utiliser le vieux langage descriptif. Parce qu'en fait, c'est l'orthodoxie qui adapte un réalisme naïf à l'égard des opérateurs, qui dit qu'on mesure des opérateurs comme si on mesurait des quantités classiques. Mais en mécanique quantique, on ne mesure pas des quantités classiques. Tout ce que l'on voit vraiment, ce sont des mouvements de particules, et rien d'autre. Et le calcul des opérateurs nous permet de calculer les statistiques de ces mouvements. Mais cela n'implique pas qu'on a mesuré un opérateur, ou même que cette expression a un sens clair. Donc évidemment, c'est vrai que le calcul des opérateurs va me dire, évidemment, c'est pas très malin, c'est vrai que moitié-moitié. C'est vrai que le calcul des opérateurs va me dire que le résultat est de moitié-moitié. Mais c'est pas pour ça que j'ai mesuré le spin ou que le spin... Alors maintenant, la troisième et dernière qualité, je vois que... la deuxième qualité, pardon. C'est la non-localité. D'où vient la non-localité dans la théorie de Bohm? D'où vient la non-localité qui est dans l'univers, que vous ne pouvez pas éliminer, qui est impliquée par le raisonnement Hyperbel à partir des données expérimentales? La racine du problème, ou la racine de la non-localité, c'est que la fonction d'onde pour plusieurs corps, on avait fait la non-localité avec deux corps, on n'arrive jamais à démontrer la non-localité en partant d'un seul corps, est définie sur l'espace de configuration, pas sur l'espace réel. Donc je vais expliquer ce que c'est que l'espace de configuration pour ceux qui ne sont pas familiers. Mais... prenons l'exemple d'un champ électrique. Si E de X ou X appartient à R3, donc c'est un champ défini sur l'espace réel, on appelle ça l'espace réel, l'espace ambiant, et le champ produit par la charge 1 et E2, le champ produit par la charge E2, alors le champ produit par les deux charges, qui est vraiment la somme des deux, est encore défini comme fonction de X. Si vous prenez plusieurs charges, vous avez une somme de champs qui est produite par les charges, mais qui est toujours une fonction de X, qui dépend évidemment du nombre de charges, mais qui dépend une fonction de X. Mais la fonction d'onde de deux particules, psi de psi x1 et x2, est une fonction de deux particules x1 et x2, et n'est plus définie sur l'espace réel, mais sur l'espace dit de configuration. Donc l'espace de configuration, si vous voulez, de façon générale, c'est quelque chose qui est R3N, c'est le n particule. L'infinité de particules, par exemple, ça devient quelque chose d'un peu compliqué. Si vous avez des champs, ça devient quelque chose d'aussi très compliqué. Mais il ne faut pas oublier que la fonction est définie sur l'espace de configuration. Alors, comment marche la non-localité? C'est très simple. Vous prenez ce dessin-ci, vous avez deux axes, x1 et x2. Alors, j'ai simplifié en remplaçant R3 fois R3 par R fois R pour pouvoir dessiner. Et je mets les coordonnées, donc je suis à une dimension, et je mets les coordonnées x1 et x2. Mais il faut bien comprendre que ce qui se passe... c'est un système en fait à une dimension, d'accord, et j'appelle x1 la coordonnée d'une particule, x2 la position d'une autre particule, d'accord, c'est ça que ça veut dire. J'ai deux particules qui ont une position x1 et x2, et je considère ça. Maintenant, je mets un potentiel autour de la position de la particule 1, ici. Mettons que la particule 2 est là, la particule 1 est là. Dans l'espace réel, les particules 1 et 2 sont éloignées l'une de l'autre. Autant qu'on veut, parce que je mets de la particule ici à 1 km, et celle-ci, je peux la mettre ici. Enfin, je peux faire ce que je veux, je mets un potentiel. Le potentiel va affecter la fonction d'onde à travers l'équation de Schrödinger, parce que l'équation de Schrödinger est donnée comme ça, et donc le potentiel apparaît. Et si je rajoute un potentiel, parce que je suis expérimentateur, et j'ajoute un champ magnétique, je rajoute je ne sais pas quoi, à un endroit donné, je change l'hamiltonien de la fonction d'onde du système, et ça va affecter le comportement de la seconde particule à travers l'équation pilote. Parce que l'équation pilote est donnée par x.k gradient sk, où s est s, c'est la dérivée par rapport xk, c'est 1 ou 2, c'est la dérivée par rapport à x1 ou x2, mais si je prends x2 point, ça va être la dérivée par rapport à x1 d'une fonction de x1 et x2, qui elle-même est affectée par la présence d'un potentiel aussi loin qu'on veut de x2. D'accord ? Si vous voulez, vous pouvez vous faire une image, vous oubliez le fait que psi est complexe, vous imaginez simplement psi comme une surface au-dessus de l'espace réel, ici R2, d'accord ? Enfin, l'espace de configuration R2, l'espace de configuration maintenant vient R2, parce que j'ai l'espace réel c'est R et j'ai deux particules. Et maintenant, vous chipotez à un endroit, vous affectez la fonction d'onde, la fonction d'onde, évidemment, en X1 peut être n'importe où en X2, d'accord ? Et par conséquent, vous pouvez avoir ce genre de comportement. Et ça, ça explique la non-localité dans la mesure où il est explicable. Ça l'illustre de façon concrète, on va dire. La fonction d'onde relie d'une certaine façon entre elles des parties arbitrairement éloignées de l'univers. Alors je dis mysticisme, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup de dérives mystiques, mais ça, j'ai expliqué pourquoi il n'y avait pas de conclusions, disons, pseudo-scientifiques qui pouvaient en être tirées. Culte de la relativité. Alors là, je suis content d'avoir aujourd'hui un des meilleurs experts mondiaux sur ces questions, qui est Ward Streuve, qui est ici, qui est de la KUL, donc il pourra répondre à toutes vos questions, si vous voulez, sur la relativité. Moi, je ne suis pas spécialiste de la théorie des champs, pour mienne, mais lui, c'est un spécialiste de la théorie des champs. Il y a en Belgique un vrai spécialiste, pas moi, c'est Ward, de la théorie pour mienne, qui travaille activement là-dessus. Et pour la théorie quantique des champs, la réponse courte, c'est qu'il existe des versions pour miennes qui reproduisent des résultats usuels dans la mesure où ils sont dans l'ambigu. Donc vous pouvez en fait avoir des théories baumiennes, mais ces théories baumiennes ne sont pas invariantes, enfin, à une exception près, ne sont pas invariantes relativistes dans un sens profond, mais les prédictions dont on prétend qu'elles justifient la relativité sont reproduites. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de différence empirique, il n'y a pas de négation empirique, si vous voulez, malgré la non-localité. Donc on peut combiner ces choses d'important, il y a une espèce de coexistence pacifique entre la non-localité quantique et la théorie de la relativité. Dans ce sens, on peut avoir des théories qui, dans le fond, ne sont pas réellement relativistes invariantes, mais qui, phénoménologiquement, le sont. Et donc, on pourrait imaginer que la relativité est, en fait, quelque chose d'émergent. Ça paraît choquant parce qu'on veut que la relativité soit fondamentale, mais elle n'est pas nécessairement fondamentale, elle peut être émergente et, d'une certaine façon, d'un substrat, si vous voulez, où, effectivement, il y a un éther, d'une certaine façon, mais qui est indétectable. C'est un peu subtil, mais... Mais ça n'a rien à voir avec les soucis baumiens, ça n'a rien à voir avec les soucis de type réaliste, etc. Ça a uniquement à voir avec la non-localité telle qu'elle est dans la théorie, telle qu'elle est montrée par E.P.R. Bell. Ça n'a rien à voir avec les préoccupations de type baumien ou les questions du premier mystère, si vous voulez, entièrement dû au deuxième mystère. Simplement, si vous résolvez le premier mystère, vous pouvez aussi vous arranger pour créer des théories relativistes invariantes de type baumien, mais qui ne sont pas profondément relativistes. Alors maintenant, je voudrais expliquer une dernière conséquence qui explique l'adéquation empirique de la théorie avec les prédictions quantiques, qui est la suivante. Une conséquence fondamentale de la dynamique de Breuil-Bohm, c'est ce qu'on appelle en termes techniques l'équivariance, et qui explique l'accord avec les prédictions quantiques usuelles. Donc, supposons que je parte d'une fonction d'onde ici, dont je représente la valeur absolue au carré, si carré, autant t, et je regarde une distribution empirique de particules. N'oubliez pas que chaque particule a une position, mais je prends une distribution empirique de particules qui est distribuée statistiquement selon le psi carré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules là où le psi carré est grand et très peu où il est petit. Et chacune d'entre elles a une trajectoire. D'accord ? Chacune d'entre elles a une trajectoire qui va se descendre. Et je regarde maintenant la distribution empirique à un temps t prime ultérieur à t. D'accord ? Un temps t prime. Je regarde la distribution empirique et je regarde la fonction d'onde, enfin le carré de la fonction d'onde ici, et je remarque que la distribution empirique ici est donnée par le carré de la fonction d'onde. C'est-à-dire que si je prends une distribution empirique ρ t qui est donnée à psi t carré, ρ t prime va être égal à psi t prime carré, mais avec des statuts très différents. Si tes primes proviennent d'équations de Schrödinger, pas d'équations de Schrödinger, donc ne c'est rien du tout des distributions de particules, et rho tes primes proviennent d'équations pilotes, c'est-à-dire on prend une distribution empirique rho t au départ, et on dit si rho t est égal à psi t carré, alors rho t prime va être égal à psi t prime carré. Mais rho t prime vient de l'équation pilote, donc évidemment guidé par la fonction d'onde. Mais c'est important de voir que ce qui est considéré comme un axiome, si vous voulez, en mécanique quantique, c'est-à-dire que la préservation de la probabilité, ici en tout autre sens, parce que la probabilité, c'est la probabilité de distribution de position de particules qui ne sont pas dans le formalisme usuel. D'accord ? La conservation de la probabilité n'a pas beaucoup de sens en mécanique quantique ordinaire, parce qu'on ne sait pas de quoi c'est une probabilité, sauf d'appareils de mesure, etc., etc. Ici, si on la prend comme une distribution de qualité de position, alors elle est préservée au cours du temps. Ce qui veut dire que si au début de votre expérience, vous supposez que la distribution de probabilité est donnée par psi carré, alors à la fin de l'expérience, c'est encore donné par psi carré, pour toutes les expériences possibles et imaginables. Maintenant, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui justifie les hypothèses sur les conditions initiales? Ça, c'est une longue discussion, parce qu'in fine, vous devez faire des hypothèses sur les conditions initiales sur l'origine de l'univers. Mais si, et ça je pourrais vous faire tout un cours là-dessus, mais je ne vais pas le faire, si vous pensez à la deuxième loi de la thermodynamique, à l'augmentation de l'entropie, vous vous rendez compte que vous rencontrez des mêmes problèmes, mais en fait des problèmes plus difficiles, pour justifier l'augmentation de l'entropie, dans un système mécanique déterministe qui est celui de la mécanique classique, vous êtes obligé de faire des hypothèses statistiques aussi. Toutes les hypothèses de la mécanique statistique sont du même genre, et en général sont moins naturelles que celles-ci, mais ça c'est un chapitre que je ne peux pas développer, c'est développé dans les livres, etc. Mais je ne vais pas développer ça, mais pensez simplement que quand on vous parle de l'augmentation de l'entropie, ben on vous parle en fait de phénomènes qui sont probables, et vous pouvez poser la question, qu'est-ce qui justifie le fait que j'utilise des probabilités dans un système déterministe qui est la mécanique classique? Et la réponse est, si vous êtes content dans ce cas-là, vous serez encore plus content dans ce cas-ci. Si vous n'êtes content dans aucun cas, alors vous ne comprenez pas l'augmentation de l'entropie, et ça c'est dommage. Donc, en fait, mathématiquement, ceci se déduit de ce qui est pareil une trivialité, c'est-à-dire... Ça suit l'équation de Schrödinger, comme je dis, c'est la partie imaginaire de l'équation de Schrödinger quand on écrit psi égale REIS et d rho dt égale la divergence du courant, où le courant il y a l'équation pilote de cette façon-là, et rho c'est psi carré. Et donc, l'équivariance d'un point de vue mathématique est une trivialité, mais sa signification n'en est pas une, même si je ne peux pas. Alors je vais terminer en disant qu'il y a un double statut pour l'onde psi. C'est une loi qui gouverne le mouvement des particules à travers l'équation pilote et qui gouverne également la distribution statistique des positions des particules à travers le psi carré. Ou le carré est au mauvais endroit, il va être en dehors. Bon, c'est le psi carré. Comparé avec l'hamiltonien, H égale log psi et psi carré égale E moins bêta H. Dans la mécanique classique, j'ai fait une comparaison entre le log de la fonction d'onde ou la partie imaginaire, si vous voulez, avec l'hamiltonien classique. Et vous prenez l'hamiltonien, et vous prenez il est lié d'une certaine façon au log de la fonction d'onde, et le psi carré, alors, est lié à E moins bêta H. En mécanique classique, H a aussi un double rôle, il guide le mouvement des particules, et il donne la distribution à l'équilibre, E moins bêta H, où bêta c'est l'inverse de la température. Mettons bêta égale à 1 ou à 2, si vous voulez, et vous avez une analogie relativement claire avec ce double statut. Si vous acceptez l'hamiltonien, si ça ne vous dérange pas que l'hamiltonien ait un double statut à la fois dynamique et probabiliste en mécanique classique, alors vous pouvez commencer à penser au psi comme ayant un double statut. Là, je reconnais que je vais un peu vite, je pense que ce qui précède est relativement clair, mais je ne peux pas, aller trop en détail là-dessus. Je suis prêt à l'expliquer, mais bon, je veux quand même m'arrêter plus ou moins... Quelle est la relation entre la théorie de De Broglie-Bohm et la mécanique quantique ordinaire? Alors, la façon dont je réponds en général, c'est la même théorie. Alors, on me dit, mais à quoi bon? Ah, non, pas tout à fait. Parce que la théorie de De Broglie-Bohm, est une théorie, c'est une théorie sur le mouvement des corps. L'autre, non. Elle ne se présente d'ailleurs pas ainsi, mais comme un algorithme permettant de calculer les résultats de mesure. Et la bonne façon de comprendre les choses, c'est que la mécanique quantique ordinaire est simplement la théorie de De Broglie-Bohm tronquée. Vous oubliez les trajectoires, cela n'affecte en rien les prédictions empiriques, et le fait que ça n'affecte rien les prédictions empiriques est en fait une conséquence de la théorie de Broglie-Bohm. La théorie de Broglie-Bohm montre d'une certaine façon son inutilité pratique en montrant que si vous oubliez les trajectoires, eh bien vous avez le résultat, d'accord? Et cela crée simplement quelques bibliothèques remplies de confusion, de mysticisme et de mauvaise philosophie. Mais à part cela, la théorie de Broglie-Bohm n'a aucune utilité. Et donc... je tiens aussi à... Alors je vais peut-être encore faire quelques remarques sur la fonction d'onde. Donc je pense qu'une des difficultés, quand on explique la théorie, c'est de faire comprendre que la fonction d'onde, en fait, est un objet physique, comme l'hamiltonien est physique. Alors évidemment, il faut peut-être que je dise quelques mots sur la nature, parce que c'est un problème récurrent, mais récurrent depuis Newton, la nature des objets, des concepts inobservables introduits en physique. Il faut bien comprendre que tous les concepts qu'on introduit, que ce soit les forces, les potentiels, les champs gravitationnels, l'espace courbe, etc., sont des quantités inobservables. Et c'est un problème que s'est posé Newton, s'est posé tous les philosophes de l'époque et tous les physiciens de l'époque, qu'est-ce que c'est que ces objets qu'on a introduits qui sont des quantités mathématiques qui apparaissent dans les équations mais dont on n'a pas de représentation physique intuitive. Et d'une certaine façon, je pense que c'est le cas pour tous les objets qu'on a introduits. On peut parfois introduire une représentation chosiste, mais prenez par exemple, pour ceux qui ont étudié l'électromagnétisme, les champs électromagnétiques. Vous avez des charges, elles sont en mouvement, elles engendrent des champs électromagnétiques. Mais jamais personne qui a vu un champ électromagnétique. Si vous voyez des champs électromagnétiques, c'est parce qu'ils agissent à travers la force de Lorentz sur le mouvement des charges, et donc guident le mouvement des particules. Mais les champs électromagnétiques... Moi, j'avais une grand-mère qui me disait toujours, tu te rends compte qu'il y a des champs des ondes, elle disait, dans cette pièce, parce qu'il y avait la TV qui fonctionnait, à l'époque, c'était pas avec des câbles, donc il y avait des ondes qui étaient perçues. Bon, forcément, il y avait des ondes, elle bougeait la TV, il y aurait encore les mêmes résultats, donc les ondes étaient partout. Mais évidemment, s'il n'y a pas la TV, on ne les voit pas, les ondes. Et d'une certaine façon, c'est comme ça pour tous les concepts de base en physique. Mais ce qui est important à comprendre en mécanique quantique, c'est que l'introduction du psi n'est pas plus mystérieuse que le reste, sauf qu'elle est non locale. Mais ça, elle est non locale parce que le monde est non local. C'est un avantage. Le fait que la théorie de Bohm est non locale est une qualité de la théorie de Bohm. C'est toujours utilisé comme argument contre la théorie de Bohm. C'est une qualité parce que le monde l'est. Vous ne pouvez pas avoir une description du monde qui n'est pas non locale à cause de la théorie de Bell. Et donc, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui pour moi, une valeur de clarification tout à fait extraordinaire des deux mystères de la mécanique quantique, à la fois parce qu'elle donne un contenu à la mécanique quantique ordinaire, elle donne un sens précis, si vous voulez, à la fonction d'onde, elle résout le problème de la mesure, elle explique pourquoi il y a des théorèmes sur les variables cachées, elle explique d'une certaine façon la non-localité, mais comme je dis, c'est la même théorie. Une fois qu'on a compris de Boyle-Bohm, on peut dire, ok, maintenant je vais résoudre l'équation de Schrödinger, appliquer la recette quantique avec le psi carré, et basta, parce que le psi carré est la solution de l'équation de Schrödinger. Je vais supposer qu'il y a cette distribution originelle, comme on dit, à l'équilibre quantique, c'est-à-dire, comme dans l'équilibre classique, si vous voulez, on a un équilibre quantique, on dit le psi carré, c'est l'équilibre quantique, au lieu de l'équilibre classique. Vous supposez cela, vous faites tous les calculs usuels, et vous occupez jamais de la théorie de Bohm. Mais vous ne remplissez pas des bibliothèques avec du mysticisme, de la confusion et de la mauvaise philosophie. C'est la seule chose. Et tout est clair. Et vous pouvez même avoir une intuition physique de ce qui se passe dans... Et ça, Tauler le fait très bien. Tauler est quelqu'un de pratique, c'est quelqu'un de moins mathématique ou philosophique que moi, si on veut, mais il donne toutes sortes d'exemples concrets comment les choses marchent dans les expériences de diffraction, dans les expériences de l'effet tunnel, etc., etc. Donc l'histoire... Dans l'histoire de... Alors, je vais passer plusieurs choses en revue dans la partie historique. D'abord, les réactions à Bohm, mais peut-être que je dois mettre quelques dates au tableau. Donc vous avez De Broglie au congrès Solvay 1927, donc à Bruxelles. Comme je dis, ça devrait être l'interprétation de Bruxelles de la mécanique quantique. Mais où se facilite d'une certaine façon l'interprétation de Copenhague, présente ces idées qui sont essentiellement des idées de Bohm, et elles sont essentiellement rejetées. Et lui-même, ça c'est ce que je reproche un peu à De Broglie, c'est qu'il était un peu flip-flop comme ça, il a changé d'avis, puis il a rechangé d'avis, etc. Mais ces idées ont été essentiellement oubliées, on reviendra à ça plus tard, mais 52, ça c'est Bohm, d'accord. Et alors Bell, c'est 1964. Donc ça c'était Bell, ça c'était la non-localité, hein. La non-localité plus les théorèmes sur les variables cachées. Donc il explique aussi le théorème Cockenspecker-Bell. Et je vous rappelle, dans 35, ça c'est le PR. Hein. Donc vous voyez la temporalité, c'est déjà en 27 et même avant, c'est même 26, 25, qui commence à introduire, quand il introduit, parce que c'est évidemment, comment dirais-je, De Broglie qui a introduit l'idée de fonction d'onde, si vous voulez, et c'est lui qui a introduit la notion d'onde pilote. Et qui, en fait, a introduit l'onde pilote, pas pour une particule, mais pour une particule, qui est quelque chose qui était... Mais la vie de quand Bohm revient sur cette théorie, il faut dire qu'il ne fait pas un grand, il ne donne pas un grand crédit à De Broglie. Mais à ce moment-là, ça passe pour une nouveauté parce que De Broglie lui-même ayant abjuré sa théorie, on se trouve dans une situation, si vous voulez, où les choses ont été complètement oubliées. Et la vie de De Broglie, l'histoire de la théorie est liée à la grande histoire ou à la véritable histoire, si vous voulez. Et vous voyez ici Bohm jeune pénétrant dans la salle d'audience du House of American Activities Committee en 1949. Bohm avait été, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du maccartisme, etc., il y a eu après la guerre ce qu'on a appelé le maccartisme, la chasse aux sorcières, bien que ça c'était avant McCarthy, c'était sous les démocrates, mais c'était, on a pourchassé, si vous voulez, les gens qui étaient suspectés ou avaient été membres du Parti communiste, avaient des activités communistes, etc., au moment du déclenchement de la guerre, au début de la guerre froide. Mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, pendant la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés contre l'Allemagne et l'Italie et le Japon. Et donc, évidemment, à ce moment-là, Hollywood, par exemple, sur commande du gouvernement américain, faisait des films pro-soviétiques. Donc, évidemment, il fallait bien qu'il y ait des gens qui avaient des idées différentes. Et Bohm était avant-guerre, il était dans des milieux, comme Oppenheimer, d'ailleurs, dans les milieux de gauche. Bon, qu'est-ce qu'il était exactement, je ne sais pas. Vous pouvez lire le livre de David Pitt là-dessus. Mais en 1950, il est poursuivi pour avoir refusé de dénoncer d'autres personnes, parce que quand on interrogeait ces gens, c'est un peu comme, enfin, c'était l'ancêtre de la lutte contre le terrorisme, on les interrogeait et on les forçait à dénoncer d'autres personnes qu'ils connaissaient comme ayant été membres du Parti communiste ou d'organisations de gauche, etc. Et il invoquait ce qu'on appelle le cinquième amendement à la Constitution américaine, qui fait partie du Bill of Rights. Le cinquième amendement dit que on ne peut pas être obligé à témoigner contre soi-même. J'ai toujours trouvé ça très curieux, parce que quand on utilisait cet amendement, on perdait son emploi, on perdait tout. C'est un peu bizarre, parce qu'à quoi sert l'amendement qui vous protège si vous êtes poursuivi pour l'utiliser? Mais bon, toujours est-il qu'il a perdu son contrat à l'université de Princeton, qui est une université privée, soi-disant indépendante de l'État, et il est inemployable aux États-Unis et part au Brésil à Sao Paulo. Qui, à l'époque, évidemment, était un endroit, il faut bien reconnaître, qui était un peu un endroit perdu. Après, il a été en Israël, qui était aussi, on parle des années 50, relativement un peu développé scientifiquement. Et puis finalement, il a trouvé un poste à Birkbeck College à Londres, qui n'est de nouveau pas. Il était membre de la Royal Society, je crois, à la fin de sa vie. Il a eu une vie extrêmement marginale. Pas uniquement à cause des idées sur la théorie quantique, mais enfin. Et il écrit en 1951, sort un livre qui est Quantum Theory, qui est un des meilleurs livres orthodoxes. Je ne l'ai pas lu en détail, mais c'est le livre où il reformule les objections EPR sous la forme EPR, qu'on note EPRB, où B est pour Bohm, pas pour Bell. Il y a beaucoup de B dans cette histoire, mais vous avez donc c'est cette forme-là. Et c'est sur cette forme-là que Bell déduit les inégalités de Bell. Je ne suis pas sûr qu'il aurait déduit. On peut les déduire sur la forme EPR usuelle, mais il n'aurait peut-être pas pensé de cette façon-là. Et sous l'influence d'Einstein, c'est très curieux parce qu'Einstein lui parle, Einstein le défend contre le maccartisme, il le soutient d'une certaine façon dans ses problèmes. Einstein était très, très opposé à cela et il était lui-même surveillé par le FBI constamment. Il change radicalement de point de vue et il développe la théorie que j'appelle de De Broglie-Bohm. Mais les réactions, en partie dues au souvenir d'un historien de l'époque qui s'appelle Max Dresden, sont assez spectaculaires. Oppenheimer dit: nous considérons cela comme du déviationnisme juvénile. Nous ne perdrons pas notre temps à lire l'article de Bohm. Si nous ne pouvons pas le réfuter, nous devons nous mettre d'accord pour l'ignorer. Abraham Pice parle aussi de déviationnisme juvénile. Et quelqu'un à l'Institut de Princeton, mais ça ce sont des réactions, des souvenirs de Dresden qui étaient là: Bohm est une calamité publique, un trotskiste et un traître. Évidemment, il était considéré comme un... Bon, c'était pas en Union soviétique qu'on disait ça, c'était aux États-Unis, mais on... Le travail de Bohm était un subproduit à durée de vie courte de la philosophie mécaniste du 19e siècle. Ça, c'est notre ami Rosenfeld, le belge de l'école de Copenhague. Et espérer en des variables cachées est aussi ridicule que d'espérer montrer que 2 plus 2 égale 5. Ça, c'était la réaction d'Heisenberg. Autant dire que les réactions n'y avaient pas avec deux de la cuillère. Dans une lettre à Fritz Pauling, alors ils se connaissaient, ils se correspondaient. En fait, Bohm a correspondu avec tout le monde. Il a même rencontré Bohr, il a rencontré Einstein, etc. Il était apprécié par beaucoup de gens entre autres par Feynman, mais Pauli dit « Bohme ne cesse de m'envoyer des lettres, comme on enverrait un religieux sectaire essayant de me convertir à la vieille théorie de De Broglie de l'onde pilote. Son approche est d'une simplicité folle qui, bien sûr, au-delà de tout espoir. » Et dans une lettre de Rosenfeld qui écrit une lettre à Bohme, il dit « Je ne vais sûrement pas entrer dans une controverse avec vous sur la question de la complémentarité. » Complémentarité est un concept de base, de bord, qui pour moi est très vague, mais bon, pour la simple raison qu'il n'existe pas le moindre point de controverse à ce sujet, c'est justement parce que nous sommes passés par ce processus de purification à travers des erreurs que nous sommes si sûrs de nos résultats. Il n'y a rien de vrai dans votre suspicion sur laquelle nous arrivons à la complémentarité par une sorte d'incantation magique. Je suis enclin à vous répondre que c'est parmi vos admirateurs parisiens que je discerne des signes inquiétants de mentalité primitive. Donc, comme vous voyez, tout ça, ça ne volait pas très haut. À propos de De Broglie sur le congrès Solvay 27, il est écrit dans le livre de Jameur, je vais dire un moment qui c'est, il fut immédiatement clair que personne n'acceptait ses idées, en fait excepté quelques remarques de Pauli, l'interprétation causale de De Broglie, donc causale voulant dire décroissant, n'a même pas été discutée à la Réunion, seul Einstein y a fait référence en passant étant en français dans le texte. Max Jammer, The Interpretation of Quantum Mechanics in Historical Perspective, ça c'est le livre, jusque récemment, le livre, the book, sur l'histoire de la mécanique quantique, des interprétations de la mécanique quantique. Moi je l'ai lu, pendant longtemps c'était la seule référence. Commentaire de Mac Towler, donc le monsieur de Cambridge dont je vous ai parlé, basé sur un livre de Guido Bacciagalupi et Anthony Valentini, qui est un livre tout à fait remarquable, qui s'appelle Quantum Theory at the Crossroads, Reconsidering the 1927 Solvay Conference, qui vient de sortir récemment à Cambridge, qui est un livre absolument intéressant parce que c'est un livre qui montre que tout le monde s'est toujours trompé sur l'interprétation du congrès Solvay. Alors c'est quand même un peu étonnant, vous dites, qu'est-ce qu'ils font les historiens des sciences? Il n'y a pas d'historien des sciences dans la salle, mais qu'est-ce qu'ils fichent ces gens pour ne pas arriver à comprendre le congrès Solvay 27, c'est pas un secret d'État, le 27, mais évidemment, il faut dire qu'à l'époque, il a été publié dans une langue, le français, dont tout le monde sait qu'il est inconnu dans le monde civilisé, et donc les gens n'ont pas lu parce que c'était en français, ils voulaient lire en anglais, et maintenant ils ont traduit tout le bouquin, ils ont tout traduit en anglais, ou retraduit en anglais, et donc c'est accessible aux États-Unis, j'imagine, et j'espère qu'on va le lire. Alors, le commentaire de Towler, c'est que c'est factuellement incorrect à tous les niveaux. La théorie est intensément discutée par la plupart des participants, à la fois après la présentation par De Broglie et dans la discussion générale. Et donc, il donne les actes pour montrer que c'est... Bohme, par contre, alors je vais passer aux réactions. En ce qui concerne Pies, donc le type qui accompagnait Einstein et qui disait, qu'il a dit « Est-ce que la Lune est là quand personne ne regarde ?» et le reste d'une Prince Institute, donc il parlait de l'Institut de Princeton, ce que ces petits péteux pensent n'a pas d'importance pour moi. Dans ces dernières 6 années, presque rien n'a été produit là. Je suis convaincu que je suis sur le bon chemin. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moins, contrairement à De Broglie, Bohme n'avait pas sa confiance entamée par les allégations. Mais ça, c'est quand il était à Sao Paulo. Alors pour modérer un peu le débat, tout ce qui précède me fait penser à ceci. La philosophie, ou on pourrait dire les fondements de la physique, doit être étudiée non pas pour obtenir une réponse définitive à ces questions, puisqu'en général, aucune réponse définitive ne peut être connue comme étant vraie, mais pour les questions elles-mêmes. Parce que ces questions élargissent notre conception de ce qui est possible, enrichissent notre imagination intellectuelle et diminuent l'assurance dogmatique qui ferme l'esprit à la spéculation. Pour revenir à la mécanique quantique, que penser les hétérodoxes de l'époque, puisqu'ils étaient tous vivants quand la théorie de Bohme est apparue, Einstein, Schrödinger, etc. Einstein. Je suis fermement convaincu que le caractère fondamentalement statistique de la théorie quantique contemporaine est uniquement dû au fait que celle-ci repose sur une description incomplète des systèmes physiques. Dans une description physique complète, la théorie quantique statistique prendrait approximativement une position analogue à la mécanique statistique dans le cadre de la mécanique classique. C'est-à-dire, là, il exprime un sentiment qui est tout à fait baumien, si vous voulez, ou de Broglien, qui est de penser que vous pouvez penser à des positions, et le psycarré vous donne la distribution des positions, et vous avez une distribution statistique, si vous voulez, des positions. Mais, concernant la théorie de Bohme, il a connu Bohme, il a parlé avec Bohme, il a même fait changer d'avis, il a même critiqué son livre de 51. Il a écrit dans une lettre à Born, « Too cheap, c'est trop facile ». Alors, j'ai écrit ça à l'Académie, n'oublions pas qu'Einstein était avant tout préoccupé par la localité, que Bohme ne resterait pas, ça c'est vrai, mais... J'ai lu, depuis que j'ai écrit ça, j'ai quand même laissé sur la transparence, j'ai lu dans les articles de Towler une des objections techniques qu'Einstein a fait à Bohm, il a fait une objection technique, il s'est même vanté, ce que je trouve vraiment très mauvais goût, mais dans une lettre à Born, d'avoir d'une certaine façon justifié l'interprétation statistique, que la théorie de Bohm ne marchait pas, et il y a eu un espèce d'échange, mais c'était la fin de la vie d'Einstein, et bon, en tout cas, il a fait une objection à la théorie de Bohm qui est fausse, mais à laquelle Bohm a répondu, et qui était un peu la même que celle que Pauli avait fait à De Broglie. Je ne vais pas rentrer dans ces objections, mais soit-il que là, je pense qu'il a raté l'occasion de comprendre cela, mais effectivement, c'est trop facile. C'est trop facile, vu tout ce qu'on vous a dit précédemment sur le fait que c'était impossible, que ça devait être plus compliqué que ça, etc. Parce que la première chose à laquelle on peut penser, c'est la première chose à laquelle De Broglie a pensé, avant même tous les autres, ou Madelung, etc., il y a des prédécesseurs de la théorie de Broglie, si vous voulez. C'est la première chose à laquelle on pense, on a une équation d'onde, on a le psi, et puis on écrit une équation de guidage, qui est celle qui est donnée par l'équation de Broglie-Bohm. Et c'est trop facile, et je pense qu'Einstein, moi, mon interprétation, c'est qu'évidemment, il a eu un coup de génie en étendant la relativité restreinte à la relativité générale, et après, il a voulu refaire ce coup avec l'électromagnétisme, avec quelque chose, essayer d'avoir une théorie généralisée. Il pensait pendant qu'une théorie généralisée sortirait de la mécanique quantique, mais qu'il ne pensait pas que ce serait une extension aussi simple. Alors maintenant, je vais passer, et c'est une dernière transparence, la plus longue, une explication détaillée par Bell, qui est dans Speakable and Unspeakable. C'est un article qui s'appelle justement Speakable and Unspeakable in quantum mechanics. Alors, il explique vraiment toute la situation. Donc, si vous voulez un résumé des trois cours, elle est là. Laissez-moi d'abord réfuter un mythe, à savoir que la mécanique quantique a d'une certaine façon défait la révolution copernicienne. Ceux qui accomplissent cette révolution copernicienne nous ont appris que le monde est plus intelligible que nous n'imaginons pas comme étant au centre de ce monde. Est-ce que la théorie quantique replace les observateurs, nous, au centre de notre image du monde ? On parle beaucoup d'observables dans les livres de théorie quantique. Et le public pourrait avoir l'impression, à partir de certaines présentations dans la littérature de vulgarisation, ça je trouve ça très injuste parce que c'est pas dans la littérature de vulgarisation, c'est dans les livres des grands scientifiques, que l'existence du cosmos dépend du fait que nous sommes là pour observer les observables. Je ne sais pas si c'est faux. Je suis enclin à espérer que nous sommes si importants, mais je ne vois aucune raison en faveur de cette idée dans les succès de la théorie quantique contemporaine. Je ne pense pas qu'il soit correct de dire au public que l'attribution d'un rôle central à la conscience a été intégrée dans la physique atomique moderne. Il me semble irresponsable de suggérer que les aspects techniques des théories contemporaines ont été anticipés par les saints des religions anciennes par introspection. Le seul observateur qui est essentiel en pratique de la théorie quantique orthodoxe est l'appareil inanimé qui, amplifiant les événements microscopiques, redonne des conséquences macroscopiques. Bien sûr, cet appareil, dans les expériences de laboratoire, est choisi et ajusté par les expérimentateurs. En ce sens, les résultats des expériences dépendent des processus mentaux des expérimentateurs, mais une fois que l'appareil est en place et fonctionne sans qu'on y touche, le fait que les expérimentateurs restent regardés ou délèguent cette observation à des ordinateurs est absolument sans importance selon la mécanique quantique ordinaire. Mais maintenant, venons au fond du problème. Donc, il se débarrasse d'abord de toute une série de mythes. Pourquoi y a-t-il cette nécessité de faire référence aux appareils quand nous discutons des phénomènes quantiques ? Les physiciens qui ont été les premiers à rencontrer ces phénomènes, donc ça c'est vraiment les fondateurs, c'est-à-dire Heisenberg, Pauli, Jordan, etc., qui ont été les premiers à rencontrer ces phénomènes, ils les ont trouvés si bizarres qu'ils ont perdu tout espoir de les décrire en termes de concepts ordinaires comme l'espace et le temps, la position et la vitesse. Les pères fondateurs de la théorie quantique ont même décidé qu'aucun concept ne pourrait être trouvé qui permettrait une description directe du monde quantique. Ainsi, la théorie qu'ils ont établie avait seulement pour but de décrire systématiquement la réponse de l'appareil. Et que faut-il de plus après tout dans les applications ? C'est comme si nos amis ne pouvaient pas trouver de mots pour décrire les endroits étranges où ils ont passé leurs vacances. Nous pourrions voir nous-mêmes s'ils reviennent plus bronzés ou plus gros. Et cela serait suffisant pour donner des conseils à d'autres amis qui pourraient souhaiter être plus bronzés ou plus gros à propos de ces endroits étranges. Nos appareils visitent le monde microscopique pour nous et nous pouvons voir ce qui en résulte. Le problème est le suivant. Comment le monde doit-il être divisé exactement entre un appareil parlable, bon, j'ai traduit speakable comme ça, dont on peut parler, et un système quantique non parlable dont on ne peut pas parler ? Combien d'électrons, ou d'atomes, ou de molécules faut-il pour constituer un appareil ? Les mathématiques de la théorie ordinaire requièrent une telle division, mais ne disent rien sur la façon de la faire. En pratique, la question est résolue par des recettes pragmatiques qui ont survécu à l'épreuve du temps, appliquées avec discernement et avec un bon goût né de l'expérience. Mais est-ce qu'une théorie fondamentale ne devrait pas permettre une formulation mathématique exacte ? Il faut bien comprendre que c'est ça notre souci. Ce n'est pas un souci réellement philosophique, comme dit B, Belle ailleurs, c'est une théorie qui est sale. On voulait une théorie qui est propre. Une théorie qui n'a pas cette division arbitraire. À mon avis, le père fondateur a tort sur ce point. Les phénomènes quantiques n'excluent pas une description uniforme des mondes micro et macro, du système et de l'appareil. Il n'est pas essentiel d'introduire une vague division du monde de ce type. Cela a été indiqué déjà en 26 par De Bruyne, quand il a répondu à l'énigme « onde ou particule » par « onde et particule ». Mais, lorsque cela fut complètement clarifié par Bohm en 1952, peu de physiciens et théoriciens voulaient en entendre parler. La ligne orthodoxe semblait entièrement justifiée par les succès pratiques. Même aujourd'hui, l'image de De Bruyne-Bohm est généralement ignorée et n'est pas enseignée aux étudiants. Je trouve que c'est une grande perte, car cette image stimule l'esprit d'une façon très salutaire. L'image de De Bruyne-Bohm élimine la nécessité de diviser le monde d'une certaine façon entre systèmes et appareils. Mais un autre problème surgit. Cette image est, je pense, toute formulation précise de la mécanique quantique a un aspect très surprenant. Les conséquences des événements survenant à un endroit se propagent à d'autres endroits plus vite que la lumière. Ceci se produit d'une façon qui ne peut pas être utilisée pour envoyer des signaux. Néanmoins, c'est une violation grossière de la causalité relativiste. Et donc, ça c'est aussi... Il faut aussi comprendre le mécanisme de Bell. Bell, comme je mentionnerai plus tard, connaissait la théorie de Bohm, la comprenait. Comprenait que la théorie de Bohm éliminait toute référence à l'observateur. Résolvait l'anthropocentrisme. Débarrassait de l'anthropocentrisme. Il a compris tout de suite. Il a compris en 52, je le citerai plus tard. Mais quand il fait son papier de 64, c'est-à-dire 12 ans plus tard, c'est quand à un moment donné, il est en sabbatique et il a le temps de réfléchir à ça, il essaye de voir si la non-localité dans la théorie de Bohm est irréductible, inéliminable, on pourrait faire mieux d'une certaine façon avoir une théorie locale. Parce que la non-localité dans la théorie de Bohm est visible et il n'aime pas, personne ne l'aime. Et il arrive à la conclusion, qui est en fait un argument en faveur de la théorie de Bohm, ce qu'il explique tout le temps dans son livre, et qui est toujours pris comme un argument contre la théorie de Bohm, à savoir sa non-localité. Si le monde est non-local, c'est bien que votre théorie reproduit cet aspect du monde. Sinon, c'est en contradiction avec les faits. Et c'est ce qu'il dit. Évidemment, comme il est modeste, il dit toute formulation précise de la mécanique quantique a un aspect très surprenant. D'accord ? Et il dit, et je pense. Il ferait mieux dire, vous n'avez jamais rien compris à rien, écoutez-moi une fois pour toutes. Mais il est trop poli pour le dire, et donc il dit de façon un peu euphémise. Et en général, il dit les choses avec un peu d'euphémisme, et on ne l'écoute pas. Bon. En plus bref, sur Copenhague, Schrödinger lui disait que c'était une extravagance philosophique dictée par le désespoir. Bon, ça, c'était... Alors, comment ce qui est... Alors, maintenant, dernier chapitre historique, si vous voulez, c'est comment ce qui existe peut-il être impossible. Alors, je ne sais pas, les mathématiciens ont peut-être disparu de la salle, mais il y a un article d'un sociologue des sciences qui s'appelle Pinch, qui s'appelle « What does it prove? Prove it doesn't prove. » Ah oui, non, il y a encore un mathématicien. Donc, c'est une question urgente pour les mathématiciens, c'est « Qu'est-ce que prouve un théorème s'il ne prouve rien ?» Et ça, ça parle d'un théorème célèbre de von Neumann, qui m'a été appris quand j'étais étudiant comme prouvant que des théories de variables cachées, tout ça. Et en 1932, dans son livre Grundlagen der Quantenmechanik, qui n'a été traduit en anglais qu'en 1955, ce qui a de l'importance pour Bell, parce que Bell ne connaissait pas l'allemand et n'a pu le lire que quand il a été traduit, il pense prouver l'impossibilité de théories à variables cachées. Et voici la démonstration. Il suppose que pour toute paire d'opérateurs AB, même s'ils ne commutent pas entre eux, la valeur existante, préexistante à la mesure de A plus B, c'est la valeur de A plus la valeur de B. Il est motivé par cela, par le fait que les valeurs moyennes quantiques satisfont cette égalité par linéarité. Si vous prenez, si au lieu de V A plus B, vous prenez le bracket psi de A plus B, psi, évidemment, ça c'est la somme par linéarité. Mais la valeur préexistante de l'appareil, de la mesure, il n'y a pas de raison de supposer cela. Et maintenant, vous prenez une combinaison qui prend, vous prenez deux variables de spin, sigma x, sigma y, vous faites une combinaison à 45 degrés, ou à 90 degrés, enfin à 45 degrés, sigma, 1 sur racine de 2, et alors c'est une nouvelle variable de spin qui a les mêmes propriétés et les mêmes valeurs propres, donc la valeur de sigma x et de sigma y sont plus ou moins 1, la valeur de sigma aussi vaut plus ou moins 1, ça c'est des résultats observationnel, si vous voulez, et ça c'est clairement incompatible avec la règle d'addition, parce que si vous additionnez deux nombres qui valent plus ou moins 1, vous allez avoir 0 plus ou moins 2, divisé par racine de 2, ça vous donne pas plus ou moins 1, ça vous donne 0 plus ou moins racine de 2. Et donc c'est impossible d'observer cette loi-là. Mais cette hypothèse, dit Bell, est idiote. A, B et A plus B, si A et B ne commutent pas, ne sont pas mesurables simultanément. Si on admet que l'appareil de mesure joue un rôle actif, qu'il a une intuition de bord non formulable dans la théorie ordinaire, mais justifiée par De Bruyne-Bohm, Alors il n'y a aucune raison de supposer que la valeur de A plus B est égale à la valeur de A plus la valeur de B, parce qu'il n'y a pas de valeur préexistante, mais ce n'est pas quelque chose de particulier. Ce n'est même pas, disons, ce n'est même pas quelque chose de significatif, si vous voulez. Par opposition à ce qu'il supposait par Ben Kokenspecker, qui était simplement que V de AB est égal à V de A fois V de B, si A et B communes, ça c'est ce que j'avais supposé dans le premier cours, vu que dans ces cas, les trois quantités AB et A fois B sont mesurables simultanément et que les résultats de ces mesures doivent respecter cette règle, c'est-à-dire cette règle du produit. Et donc là, vous avez une contrainte V. La différence, c'est que là, vous avez une contrainte empirique qui est donnée par les observations de la mécanique classique, tandis que la règle ici précédente, elle est totalement arbitraire, elle n'est imposée par aucune contrainte empirique. Et donc le fait qu'elle mène à des contradictions ne signifie rien en soi. Mais donc, il faut bien comprendre que ce que von Neumann a voulu prouver était basé sur des hypothèses arbitraires, mais vous pouvez arriver à une conclusion similaire en partant d'hypothèses plus plausibles, qui sont celles de Bell Kokenspecker. Alors Bell, qui ne mâche pas ses mots, dit dans une interview, donc ça c'est pas une lettre privée, il y a preuve de von Neumann, si vous la regardez sérieusement, elle tombe en morceaux entre vos mains. Il n'y a rien là-dedans, ce n'est pas seulement erroné, c'est stupide. Quand vous traduisez ces hypothèses en termes physiques, c'est du non-sens. Vous pouvez me citer là-dessus, la preuve de von Neumann n'est pas seulement fausse, mais idiote. D'ailleurs, le premier article ici, dans ce livre que personne ne lit, mais qui est excellent, il n'y a pas seulement l'article de Bell où il montre la non-localité, mais il y a aussi un article où il discute justement un théorème sur les variables cachées, et il donne sa version de ce que j'ai appelé Bell-Kokenspecker, sauf que la version que j'utilise est due à Mermin, elle est bien ultérieure. Mais il donne sa version de ce théorème et explique pourquoi le théorème de von Neumann ne prouve rien. Il donne même pour un spin une théorie de variables cachées qui reproduit les résultats expérimentaux. Donc il montre bien, si vous voulez, que faut pas oublier que ça c'est la preuve de Bell-Kokenspecker suppose au moins deux particules. Ici, ce serait vrai. Même pour une particule, il n'y a pas de problème à donner des valeurs de variables cachées au spin. Mais ce qui est important entre 32 plutôt le livre de von Neumann, c'est l'impact du théorème de von Neumann et le fait qu'il est répété de façon systématique comme étant prouvé qu'on ne pourrait pas avoir de théorème de variables cachées, à commencer par von Neumann lui-même, qui lui ne pensait pas que son théorème était idiot, parce qu'il dit « ce n'est pas comme on le suppose souvent une question de réinterprétation de la mécanique quantique, le système actuel de la mécanique quantique devrait être objectivement faux, donc je suppose qu'il veut dire expérimentalement faux, pour qu'une description du processus élémentaire, autre que celle des statistiques, soit possible. » D'accord ? Et donc il dit, mon théorème a éliminé toute possibilité d'une autre description. Alors, toujours aussi modéré, Payot, ce qu'on avait vu dans le premier cours, comme disant que la mécanique quantique parle d'un observateur et par conséquent on a besoin de quelqu'un qui observe pour que ça ait un sens, dit en 79, mettez ça sur l'échelle du temps, longtemps après Bell, longtemps après Bohm, il dit, ces dernières années, le débat sur ces idées, donc celle de l'école de Copenhague, s'est rouvert. Et certains mettent en question ce qu'ils appellent l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, comme s'il existait plus qu'une interprétation possible de la mécanique quantique. Donc ça vous donne une idée du dogmatisme en 79. Donc moi, j'étais étudiant à ce moment-là, et c'était le zeitgeist de l'époque. Bohm, qui, lui, avait écrit un livre en anglais que Bell avait lu, dit « Nul paramètre caché, donc nulle variable cachée, ne peut être introduit grâce auquel la description pourrait être remplacée par une description déterministe. Par conséquent, si une future théorie devait être déterministe, elle ne pourrait pas être une modification de la théorie actuelle, mais devait être essentiellement différente. » Donc il dit que c'est impossible. Et donc ce que je trouve étonnant, c'est que tout le monde dit, en fait, sur la base du théorème de von Neumann, que ce qui existait déjà à l'époque, en 27, et les commentaires sont souvent ultérieurs à 52, c'est-à-dire est impossible. Mais comment est-ce que quelque chose... Ça, c'est quelque chose qui, au moins, devrait intéresser au moins les mathématiciens, que quand on énonce des théorèmes qui disent, dont le commentaire est que quelque chose est impossible, dont on montre qu'il est possible, parce qu'il existe, la théorie de Breuil-Bohm, au moins, ce contre-exemple devrait interroger l'orthodoxie. Comment se fait-il qu'on m'a répété, quand j'étais étudiant, et qu'on le répète encore, que les théorèmes de variables cachées ont été réfutés par von Neumann, par Kokenspecker, par Bell, etc., alors qu'une théorie dite de variables cachées, c'est-à-dire de Breuil-Bohm, existe, reproduit les résultats expérimentaux? Ça devrait quand même... Je sais pas, il me semble qu'on devrait à un moment donné se dire, mais est-ce que ce que je raconte est vrai? L'orthodoxie devrait se poser cette question, mais en général, elle ne se la pose pas. Alors, Bell dit, ayant lu cela, moi j'ai eu la même réaction, j'ai relégué cette question dans mes arrière-pensées, donc lu Bohm, et je me suis occupé de choses plus pratiques. Mais en 52, j'ai vu l'impossible se réaliser. Je crois que le livre de Bohm doit dater de 49. C'était dans les articles de David Bohm. Bohm montrait explicitement comment des paramètres pouvaient effectivement être introduits dans la mécanique ondulatoire non relativiste, grâce auquel la description indéterministe pouvait être transformée en une description déterministe. Et ce qui est plus important à mon avis, la subjectivité de la version orthodoxe. La référence nécessaire à l'observateur pouvait être éliminée. De plus, l'essentiel de cette idée avait été avancé déjà en 27 par De Bruyne dans son image d'onde pilote. Mais alors, pourquoi Born ne m'avait-il pas parlé de cette onde pilote? Ne serait-ce que pour signaler ce qu'elle avait erroné? Mais bien sûr, il l'ignorait complètement. Pourquoi von Neumann ne l'a-t-il pas prise en considération? Il connaissait les travaux de 27. Plus extraordinaire encore, pourquoi continuait-on à produire des preuves d'impossibilité après 52 et aussi récemment qu'en 1978? Donc il y avait encore des preuves prouvant que la théorie qui existe depuis 52 ou de 27 en fait est impossible. Alors que même Pauli, Rosenfeld et Heisenberg ne pouvaient guère produire de critiques plus sévères de la version de Bohm que de la dénoncer comme étant métaphysique et idéologique. Et les critiques de Pauli et Rosenfeld, vous les trouvez dans un livre d'hommage à De Bruyne, qui s'appelle De Bruyne, physicien et penseur, qui est à la bibliothèque, on va dire que je l'ai emprunté. Ce sont des livres, c'est des trucs assez intéressants, parce qu'en fait, bien que ce soit un hommage à De Bruyne, ce sont des critiques implicites de De Bruyne, mais à ce moment-là, à travers la critique de Bohm. Et c'est vrai que les critiques sont de ce type-là. Or, si elles étaient fausses empiriquement, on montrerait pourquoi elles sont fausses empiriquement. Pourquoi l'image de l'onde pilote est-elle ignorée dans les ouvrages de mécanique quantique? Ne devrait-elle pas être enseignée, non pas comme l'unique voie, mais comme un antidote à l'autosatisfaction régnante, pour montrer que l'imprécision, la subjectivité et l'indéterminisme ne nous sont pas imposés de force par des faits expérimentaux, mais un choix théorique délibéré. Et jusqu'à quelques années, je terminais mes exposés par cette citation de Bell que je trouve tout à fait to the point. Mais j'en ai trouvé une que je préfère parce que c'est quelqu'un de totalement inconnu, Valia Lori, relativement inconnue, qui est une physicienne et philosophe des sciences italienne qui travaille aux États-Unis et qui donne un témoignage que je trouve assez émouvant et qui est aussi le mien, enfin qui est aussi un peu ma réaction. Ce qui m'a toujours intéressé était de comprendre ce que le monde est. C'est pourquoi j'ai étudié la physique. Si la physique est l'étude de la nature, alors pour comprendre la nature, il faut d'abord étudier la physique. Mais mes espoirs ont été déçus par ce qui est, ou semble être, généralement accepté dans beaucoup de départements de physique dans le monde entier. Après la mécanique quantique, il faut abandonner l'idée que la physique nous donne une image de la réalité. Au début, j'ai cru que c'était vrai. J'ai été tellement déçu que j'ai décidé d'abandonner mon rêve romantique. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que certaines des choses que j'avais acceptées n'étaient pas si manifestement vraies. Et j'ai repris espoir que la mécanique quantique n'était pas réellement la fin de la physique. Au sens où je l'entendais. Par conséquent, j'ai commencé une thèse en physique pour étudier la situation. En faisant mon doctorat sur les fondements de la mécanique quantique, j'ai compris que ce que les physiciens considéraient comme étant une vérité inévitable était au contraire une grossière erreur. La mécanique quantique ne force pas à abandonner quoi que ce soit et sûrement pas la possibilité d'étudier la réalité à travers la physique. Oui, je vais quand même ajouter un peu. Ça c'est la fin. Mais je suis content d'avoir pu faire cet exposé. Et donc, je remercie particulièrement Bernard Pirot de m'avoir proposé de le faire. Mais comme je l'ai dit, on était étudiants ensemble, André et moi. Déjà, quand nous étions étudiants, je n'acceptais pas l'interprétation orthodoxe, je n'acceptais pas ce discours où on disait la nature, on ne parle pas de la nature, mais la connaissance qu'on en a, etc. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Les professeurs ne me l'expliquaient pas. Et j'ai toujours été. J'ai eu un peu la réaction de la Laurier et de Bell de dire bon, pareil que c'est comme ça, occupons-nous d'autre chose. Je me suis occupé de mécanique statistique où les problèmes ne se posaient pas, et donc j'ai abandonné l'idée de comprendre la mécanique quantique. Et j'ai découvert. Petit à petit, en travaillant aux États-Unis à Rutgers, à travers Goldstein, donc il y a Dürr, il faut dire qu'il y a trois personnes, donc Detlef Dürr, qui est un des auteurs de ce livre, Sheldon Goldstein et Nino Zanghi, qui ont travaillé énormément pour, d'une certaine façon, populariser, clarifier, formuler plus en détail la théorie de Bell et la théorie de Breuil-Baud, mais ce qui se trouve dans le livre de Bell, qui est souvent dit de façon un peu elliptique. Et donc j'étais ami avec eux, j'ai appris. À partir des années 80, à Nantes, la théorie de Bohm. Je n'ai pas, comme eux, eu le courage ou l'audace de me lancer là-dedans, de me lancer dans des recherches. Je passe mon temps, une partie de mon temps, à lire, à écrire, à à essayer de convaincre les gens, à faire des séminaires là-dessus, mais je n'ai pas de recherche originale à ce sujet. Et donc je suis assez content de pouvoir en parler ici, dans ma propre université, mais je dois dire que je ne suis pas très loin de la retraite, et pendant tout le temps, entre le moment des années 80 et maintenant, où j'avais cette vision des choses, c'était impossible. C'était réellement, à certains moments, pratiquement physiquement impossible. Je veux dire, je pourrais passer, vous parler jusqu'à la fin de la nuit, je ne pense pas que vous voulez passer toute la nuit à m'écouter, mais de toutes les histoires qu'il y avait pour où je me rendais compte que ça provoquait des réactions émotionnelles terribles, et partout dans le monde, je ne dis pas seulement à Louvain, je veux dire partout, vous avez les réactions que vous avez vues, dont j'ai cité un petit exemplaire à propos des réactions de Bohm quand il a venu avec sa théorie, la réaction de Payard en 79, etc., etc. Et donc, toute mise en question, c'est une leçon que j'ai retenue, si vous voulez, qui est une propriété plus générale, c'est qu'en général, je défends la science contre les pseudosciences, contre l'irrationnel, etc. Mais une chose que l'histoire triste de l'interprétation de Copenhague et de la théorie de Bohm m'a appris, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absurdités, il y a beaucoup de non-sens, mais les hétérodoxes n'ont pas toujours tort, y compris à l'intérieur de la science. Et pour être au cœur même de l'entreprise scientifique et voir des démarches qui, bien que dominantes et entre guillemets orthodoxes, sont irrationnelles. Et je pense que l'exemple de la théorie de l'histoire de Copenhague, je ne veux pas dire l'interprétation de Copenhague parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'exemple, le discours dominant sur la mécanique quantique en est malheureusement un exemple. Et j'ai appris par là que quand il s'agit de critiquer les hétérodoxes, en général, j'essaye, en tout cas, que ce soit des gens qui ont des opinions divisantes sur le climat ou je ne sais pas quoi, j'essaye de réfuter ce que les gens disent et non pas ce qu'on dit qu'ils disent. Parce que quand vous prenez ce qu'on dit de Bohm, ce qu'on dit de Bell, etc., c'est totalement à côté de ce qu'ils disent. Et il suffit de les lire pour voir ce qu'ils disent, mais on ne les lit pas. Et on lit ce qu'on dit qu'ils disent, et on répète ce qu'on dit qu'ils disent, et on réfute ce qu'on dit qu'ils disent. Et ça, c'est aussi une leçon que je voudrais tirer. Alors, je suis content, d'une certaine façon, je vois qu'il y a une évolution, d'une certaine façon, qui m'encourage. Je vois que, par exemple, mon ami Detlef Dürr a fait des cours récemment en Allemagne sur la théorie de Bohm. Et il dit qu'il n'y avait personne qui était là dans la salle pour saboter, il n'y avait pas de chahut, rien. Ça s'est très bien passé, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. Et donc, il n'y avait personne qui protestait, etc. Il y a encore des articles incendiaires et qui déforment les trucs, mais ce n'est pas aussi universel que ce n'était dans le temps. Et je pense que, par exemple, la simple publication dans Science de la figure que je vous ai montrée, cette figure-là, le fait qu'elle soit publiée dans Science, c'est révolutionnaire. D'abord, ce qui m'a étonné dans la figure, c'est deux choses. Une, c'est qu'on ait pu faire l'expérience, parce que je n'avais jamais pensé à ces mesures faibles. Je ne suis pas étonné du résultat, parce que je crois à la théorie de Bohm, donc je ne suis pas étonné du résultat. Mais je suis étonné qu'on ait pu faire l'expérience, et deux, qu'elle ait pu être publiée. Parce qu'en 1970, dans Reviews of Modern Physics, c'est sur le site de Tauler, tout ça, vous avez un journal qui publie un article qui propose une interprétation statistique de la mécanique quantique qui, en fait, ne tient pas la route, mais peu importe. Il propose une interprétation qui n'est pas l'orthodoxie en septembre, alors qu'il y a déjà Bell, il y a Bohm, etc. Et il y a un éditorial de la revue qui s'excuse auprès des lecteurs en disant « On a beaucoup hésité, mais quand même, on va... » C'est comme si c'était un truc sur l'astrologie ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, vraiment, c'est très comique de voir comment le dogmatisme qu'il y avait. Et donc, je pense qu'il y a un affaiblissement contemporain du dogmatisme et du fanatisme. Je dois vraiment parler de fanatisme. Et donc, dans les débats, d'autre part, évidemment, un des problèmes qui est et qui se pose en général dans le monde académique, c'est que plus encore qu'avant, peut-être, on est dans la situation de publisher perish, et que les gens qui cherchent à travailler sur ces sujets, comme mon ami Ward et beaucoup d'autres, ont beaucoup de mal à trouver des emplois, et par conséquent, évidemment, ça décourage les recherches, parce qu'il y a encore des recherches, par exemple sur la théorie quantique bohmienne, qui peuvent être menées, et il y a beaucoup de travaux de clarification qui ont été faits par Dürr et les autres, et donc, et aussi par Valori, dont j'ai parlé, Valori dont j'ai parlé à la fin, et donc je pense que le problème, évidemment, c'est que si la science devient de plus en plus focalisés sur les résultats à court terme, les publications, etc. Les soi-disant applications, même quand elles ne servent à rien, alors évidemment, la possibilité de penser, si vous voulez, à ce que les choses signifient, qui est exactement le problème que j'essaie de poser, devient de plus en plus difficile. Bon, je vais m'arrêter là.